Bonjour et bienvenue sur Bagro Point pour un nouveau podcast, cette fois dédié à une nouvelle saga de l'improbable et de l'impossible. Avant de commencer, comme d'habitude, notre petite présentation de nos chroniqueurs, mais je pense que tout le monde commence un petit peu à tous les reconnaître et les connaître, vu qu'apparemment, il y en a un ici qui s'est même fait reconnaître dans la rue à sa voix, hein, ce qui est quand même plutôt charisme. À ma gauche, comme d'habitude, TMDJC.
Coucou tout le monde.
En face de moi, comme d'habitude, Well Cook, bien sûr, je le tiens à l'œil cette fois.
Bonjour, sauf comment une fois on m'a reconnu dans un bar à cause de mes interventions à la Japan Expo.
La classe. Et à droite, l'homme qui ne peut plus parler sans que personne ne puisse le trouver qui c'est Frionel.
Salut, ça faisait
enfin,
longtemps.
Au milieu, entre Frionel et Well Cook, rien de grave-le, je vous rassure, il y a JP Koff qui se joint à nous aujourd'hui pour parler, attention, de World Heroes. Salut JP Koff.
Bonjour, je me présente.
Voilà.
merci Nathan, comme ça on a pu dire ton prénom. Et maintenant, si jamais un jour vous n'aimez pas la voix du mec qui me présente, voilà. Il s'appelle Nathan.
Voilà. Notre patron vénéré que nous saluons nous aussi et qui sera avec nous tout le long de ce podcast.
Je suis honoré par votre présence à tous.
On a essayé de l'évincer, on n'a pas réussi, désolé pour nos auditeurs.
Petite tentative de coup d'état la dernière fois.
Tu vois qu'il continue, il est très impertinent. Alors, si on est réunis aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est pour parler de World Heroes. Et je crois qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui savent encore ce que c'est que World Heroes.
Oui, il y a nous.
Oui, il y a nous. Encore heureux qu'on encore heureux qu'on sache un petit peu pour en parler. Donc alors, on va commencer par une question tout à fait bête. C'est quoi World Heroes ? Qui veut répondre ? Ouais, Frio.
Alors, World Heroes, pour résumer, c'est une saga de jeux de baston, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un coup au pif, un petit jeu qui est sorti de nulle part. Non, non, c'est bien une saga qui a été soutenue par son développeur, qui est ADK, on en parlera un peu plus tard. Donc, en fait, World Heroes, c'est un concept un peu simple. Donc, l'histoire du jeu, le principe, c'est que, comme le nom du jeu l'indique, c'est des héros du monde, mais aussi de l'histoire, puisque le principe, c'est qu'un savant fou a inventé une machine à voyager dans le temps, le savant du nom de Doc Brown, comme Retour vers le futur. Et en fait, il va réunir tous les grands héros de l'histoire pour se les faire affronter et que le vainqueur, en fait, affronte le grand méchant qui prévoit de conquérir le monde et tout ça, machin.
D'accord.
Machin truc bidule.
Ouais, donc en gros, c'est un gros fourre-tout, quoi.
Ça commence
un peu comme un fourre-tout, comme
en fait,
tu le dis comme ça.
En fait, voilà, le principe du jeu, en dehors du gameplay, c'est qu'en fait, on incarne des personnages historiques. Donc, je donne... c'est des reproductions, des imitations de personnages historiques. C'est-à-dire que... Oui, voilà, un peu mythique quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un Bruce Lee qui ne s'appelle pas Bruce Lee, qui n'est plus chinois mais coréen. Il y a une Jeanne d'Arc, il y a un Genghis Khan, des trucs comme ça. Mais d'accord. C'est soi-disant des références à des personnages historiques.
Alors, il y a quand même un truc, c'est que Genghis Khan et Bruce Lee, ça n'a quand même pas tout à fait le même âge, c'est pas tout à fait la même aura. Donc, envie de dire, c'est quand même...
Voyage dans le temps aussi.
Voilà, ouais, enfin, c'est quand même du sacré mélange.
Oui, complètement.
Donc, aucun complexe, quoi. World Heroes, absolument aucun complexe de base, quoi. C'est une série qui s'en fout, quoi.
Voilà, de façon, le concept qui a été mis a laissé porte ouverte à tout et n'importe quoi. En fait, ils n'avaient pas de limite.
Ouais. Plus à n'importe quoi qu'à tout.
Oui, c'est vrai.
Bon, alors, on va commencer, comme d'habitude, un petit peu, après avoir un peu présenté le jeu, par dire qui l'a créé. Parce que voilà, c'est important. Donc, Well Cook, si tu veux bien prendre ton micro, s'il te plaît.
Je reprends mon micro.
Voilà. Alors, malgré ce que certains croient, ce que beaucoup croient même, c'est que ce serait SNK qui aurait créé World Heroes.
Absolument pas.
Et c'est pas du tout SNK qui a créé World Heroes.
Non, en fait, les gens pensent ça parce qu'on a vu les personnages qui se sont réapparus dans Neo Geo Battle Coliseum et qu'en réalité, SNK a racheté les propriétés intellectuelles d'ADK. C'est bien ça, Flonel ?
Oui, c'est exactement ce qui s'est passé.
Donc, ADK, qui est le créateur original de la série, le nom à l'origine, c'est des initiales de Alpha Denshi Kabushiki Kaisha, qui veut dire
attention,
l'entreprise corporation, à peu de choses près.
Donc entreprise, tout ça pour ça.
Oui, tout ça pour ça. Donc, un nom complètement anonyme en réalité.
Bah, un peu comme SNK qui s'appelait Nouveau...
Shinryon Kokikaku, Nouveau Projet Japonais.
C'est pas exactement pareil, du coup, il y avait un côté...
C'est pour ça que le nom qu'ils utilisaient au départ, c'était Alpha tout court.
C'était
le sigle des
jeux. C'était Alpha Denshi au début. Après,
ils ont le logo. Sur World Heroes, le premier logo, c'est Alpha.
Alpha. Ouais, tout à fait.
Voilà, donc ils ont un peu navigué avant de trouver leur nom définitif. Alors, pour l'entreprise en elle-même, elle est née en juillet 1980.
Ouais.
Ce qui ne nous rajeunit pas. Je crois que tu n'étais même pas né, mon cher chef.
Je n'étais même pas né, vous vous rendez compte ?
Tu vois ?
Le noob.
Oui, on sait que tu étais déjà.
J'étais
déjà au lycée. Tout ça.
Donc, à la base, c'est une entreprise qui faisait de l'électronique. J'ai pas trouvé beaucoup de précisions sur ses origines, à part qu'elle faisait de l'électronique et qu'après elle s'est orientée vers les jeux de l'arcade, parce qu'à l'époque, bon, électronique, arcade, c'était un pas qui se franchissait assez facilement, ou électronique, jeux vidéo d'ailleurs.
Et surtout que Osaka, vu que c'est une boîte d'Osaka, il faut le préciser, c'était la mode en fait. C'était complètement la mode.
Ah oui, il y avait un pool
c'était un
de
créneau
créateurs.
En fait, c'était un créneau. Et comme au niveau du hardware et de la technologie, ils avaient déjà ce qu'il fallait, beaucoup de boîtes en fait ont commencé à tenter le jeu vidéo, vu qu'apparemment ça utilisait les mêmes compétences, on va dire, et les mêmes technologies que ce qui
En tout cas,
déjà.
Ça utilisait la même base de technologie.
Ouais,
surtout.
Voilà. Donc c'était vraiment, vraiment répandu, c'était à la mode. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait du jeu de combat, puisque je vous rappelle que Capcom et SNK, c'est des boîtes d'Osaka. Et ouais. Que c'était vraiment, vraiment la mode, on va dire,
alors, si
de
on
faire
peut,
son petit
là,
jeu.
Tu as sauté une bonne décennie.
Si je peux le permettre, en fait, c'était la Silicon Valley de l'arcade Osaka à l'époque, non ?
Si tu veux. C'est ce qu'aujourd'hui, on appellerait des pôles de compétences ou ce genre de choses. Quoi.
Ouais, okay. Donc,
qui bouffaient tous plus ou moins ensemble. Il y avait beaucoup de croisements d'informations de manière plus ou moins officielle. Et ça a beaucoup joué dans la créativité des jeux.
Ok, alors continue.
Au début, donc, ils ont commencé par le jeu d'arcade. Leur premier jeu au pluriel n'avait pas grand chose d'original.
On a
d'originaux.
Leur nom des premiers jeux
J'ai les noms, mais je ne sais plus trop où je les ai rangés. Désolé. Ce que je peux dire, c'est que le tout premier jeu, c'était un jeu de shogi. Le shogi, ce sont les échecs japonais.
Ouais.
C'était un genre qui était comme les échecs chez nous dans le jeu vidéo. C'était pareil, ça se développait en parallèle. À chaque éditeur essayait d'y aller plus loin dans l'IA et tout ça. Là où ils ont fait un peu plus fort sur leur deuxième jeu, c'est qu'ils ont développé le premier jeu d'arcade de Mahjong.
C'est eux qui ont fait le premier jeu d'arcade Mahjong.
Mahjong, ce qui est un genre ultra populaire. Hein. C'est encore super joué dans les salles au Japon.
Oui, c'est un des genres les plus qui marche le mieux, puisque de toute façon, c'est un jeu qui n'a jamais été démodé. Et avec toutes les possibilités de jeu avec bornes réseau et tout ça, ça s'est super développé.
Voilà. Aujourd'hui, on a encore sorti un qui était énorme avec des bornes où tu peux jouer en local à 8, je crois, ou quelque chose comme ça.
Mais disons que c'est un peu l'ancêtre du Versus, hein, puisque quelque part, il y avait une confrontation entre deux joueurs. Hein.
Donc, ensuite, ils ont développé différents autres... J'ai du mal aujourd'hui à parler, je trouve.
Un peu, hein, ouais.
Ils ont développé d'autres jeux. Bon, alors, je ne vais pas vous citer la liste des noms parce que ça ne parlera pas énormément de monde. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de travailler avec SNK sur Neo Geo, il y a eu très peu de sociétés qui ont travaillé avec SNK sur Neo Geo. Leurs jeux ont été distribués par Sega et Tecmo. Donc, ils avaient déjà tapé dans l'œil de très grands éditeurs d'arcade, et c'est ce qui a fait que par la suite SNK s'est aussi intéressé à eux pour qu'ils viennent développer sur Neo Geo.
Pour avoir aussi des portages de leurs jeux d'arcade, des jeux d'arcade.
C'est pas des portages, c'est pour qu'ils développent directement sur le hardware.
Oui, voilà, oui. Parce que c'est ce que je voulais dire avec l'AES et la Neo Geo en elle-même.
Voilà.
Quoi.
Alors,
mais dans ce cas-là,
l'arcade à la maison,
je sais pas si on peut vraiment parler de portage quand c'est.
Oui,
ce
adaptation. Enfin, ouais. Bref, on se comprend. C'est, quoi. Ouais, c'est vu que c'est la même chose, mais que tu peux l'avoir à la maison, voilà. On a déjà parlé dans l'épisode.
C'est surtout, à mon avis, que SNK ne se sentait pas capable au début de fournir des jeux suffisamment régulièrement pour faire vivre son système. Donc, c'était intéressant pour eux de faire venir des intervenants extérieurs pour produire des jeux aussi.
Mais c'est une pratique qui est régulièrement faite, même encore aujourd'hui. À l'époque, on avait encore des développeurs qui soutenaient eux-mêmes leur hardware en proposant des jeux, mais ils se faisaient souvent épauler, on va dire, pour avoir un calendrier de sortie soutenu et régulier. Ils avaient toujours besoin en fait, de développeurs annexes qui continuent à développer en exclusivité sur leur support.
Et même parfois dans leurs propres équipes.
Après, pour savoir, sur Neo Geo, les jeux qu'ils ont développés sur Neo Geo se sont retrouvés sur beaucoup d'autres consoles, mais les portages, comme pour les jeux SNK, ont été assurés par Takara, qui était l'éditeur phare pour les portages des jeux Neo Geo à l'époque.
Ouais.
Alors sur Neo Geo, par contre, ils ont développé beaucoup de jeux très connus. On peut parler de Blues Journey, de Magician Land, de Ninja Combat, de Thrash Rally, de Crosswords World, de Ninja Commando, et tout ça qui était sorti avant World Heroes. Twinkle Star, c'est plus tard. Là, je parlais des jeux avant World Heroes. Donc, ce sont des jeux qui, s'ils ne sont pas forcément très connus, quand on les regarde et qu'on les joue aujourd'hui, on voit qu'ils ont servi de base à d'autres jeux derrière dont ils se sont inspirés. Mais ils ont qu'ils ont inspiré, pardon.
Mais ils ont surtout marqué en fait la base, le début de la Neo Geo. Beaucoup de possesseurs de Neo Geo de l'époque
se souviennent très bien de ces jeux-là.
La Neo Geo à l'époque, ça faisait partie en fait des gros jeux qu'il y avait au départ, puisque ADK, comme je l'ai dit, ils ont balancé beaucoup de titres en fait sur les deux premières années en fait de la commercialisation de la Neo Geo. Donc beaucoup font cet amalgame. En fait, ils pensent que la plupart de ces jeux-là sont des jeux SNK, puisqu'ils ont accompagné en fait les débuts de la Neo Geo
de la console.
Ouais. En tout cas, voilà. En Occident.
C'était des jeux qui techniquement n'étaient pas forcément très impressionnants, mais qui niveau gameplay en général avait une originalité qui faisait qu'on arrivait à s'y intéresser beaucoup.
D'accord. Et voilà. Donc, comment ils sont arrivés à World Heroes?
Alors, ça, c'est une question pour TMDJ, c'est pas pour moi.
Et alors... bien, je m'en vais vous répondre. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le classique. Oh, il y a eu Street Fighter 2. Et comme il y a eu Street Fighter 2, ils se sont dit, voyons voir ce qu'on peut faire. Alors, il faut juste préciser deux petites choses par rapport à l'époque. C'est que beaucoup de gens n'imaginaient pas la profondeur que pouvait être un jeu de combat. Ce qui fait que beaucoup se sont lancés, en fait, dans le développement de jeux de combat en se disant, oui, c'est facile. Du coup, il n'y aura pas beaucoup de stages à faire. On va faire quelques persos. Ça va se faire tout seul. Et beaucoup, du coup, se sont cassés les dents. On peut dire qu'ADK n'a pas fait ça exactement comme ça. Ils ont essayé de voir comment est-ce qu'ils pouvaient à la fois ménager leur portefeuille tout en proposant un jeu qu'ils étaient à peu près sûrs de vendre. Donc clairement, ils sont partis, eux, leur choix, ça a été de partir sur la vague de Street Fighter 2. On verra un peu plus tard que dans le jeu, il y a des archétypes de personnages en fait qui font clairement référence aux personnages de Street. Pour autant, ils voulaient garder leur originalité, petit 1, ça c'était très important. On va revenir sur le scénario dans un court instant, mais on peut dire à l'époque que le choix de faire World Heroes, c'est-à-dire d'aller chercher des personnages dans le temps et tout continent confondu, c'était pour dire, nous on va faire un jeu qui... Street Fighter avait son tournoi, c'était un petit tournoi du Japon où effectivement il y avait des gens qui venaient du monde entier, mais c'était le petit tournoi, etc. Là, nous, on parle d'un truc, c'est les gens du monde entier et de toute époque confondue. Attention, les gars, on est déjà sur un autre niveau.
Alors, voilà. si je peux me permettre une remarque, le sous-titre de Street Fighter 2, c'était quand même marqué The World Warriors. Ouais. L'intro du jeu, c'était quand même un Américain qui foutait un bourre-pif à un autre Américain devant des gros immeubles américains.
Parfaitement.
Donc, j'ai envie de dire, le monde, j'ai l'impression qu'on, puis même tous les stages de Street 2, ça se passait un peu partout dans le monde, si je me souviens. Bien
tout
quand
à
même.
Fait. C'est ça.
Donc en fait,
sauf en Afrique.
Donc Street Fighter 2 était déjà dans le monde, on va dire. Donc ça fait un peu la surenchère de dire à travers le monde et à travers le temps.
C'est une surenchère.
Elle était complètement assumée. Voilà.
On avait une introduction, c'est-à-dire que quand tu rentres dans World Heroes et tu commences, il n'y avait pas ça dans Street Fighter 2. On avait le docteur Brown qui annonce et qui dit donc au début. Voilà, je vous ai réunis de tous les coins de l'histoire et du monde pour vous affronter, et il faut le préciser, dans des combats sains. Healthy fights, comme
healthy
il dit.
Healthy fight.
Pourquoi? Alors, il y a une info que j'ai récupérée grâce à vous, du coup, parce que j'étais très étonné, moi, il y a quelques mois, d'apprendre
qu'il y avait des
bornes d'arcade où on pouvait jouer, par exemple, à Street Fighter 3 avec... 3 boutons, 4 boutons. Moi, je ne pensais pas que ça se faisait encore. C'est des trucs, c'est extraordinaire. Et en fait, j'ai découvert que le gameplay de base de World Heroes, dont on va parler dans pas très longtemps, en fait, qui s'appuie sur 2 boutons. Alors, il y a 3 boutons, mais le jeu est totalement jouable à 100% avec 2 boutons. Eh bien, c'était un argument commercial. En fait, il y a des documents où ils arrivaient et disaient, nous, on peut vous proposer un jeu qui, contrairement aux autres jeux où il faut plein de boutons, etc., nous, vous pouvez la mettre dans la borne. C'est bon, en fait, on a besoin que 2 boutons et d'un stick. C'est bon, pas de problème. Et ils arrivaient, donc ils arrivaient avec cet argument, mais c'est exactement ça, en fait. C'était vraiment le entre guillemets, le Street Fighter du pauvre, dans le sens où nous, on va passer partout. Notre jeu, il est mieux. Et en plus, il faut moins de boutons.
Et aussi, donc, un argument qui jouait à l'époque, notre jeu est plus simple d'accès. Pas besoin de jouer avec 8800 boutons, parce que il faut rappeler quand même que Street Fighter 2 était à l'époque l'un des jeux avec le plus de boutons de l'histoire du jeu d'arcade.
Ouais, on en avait parlé justement en termes de nouveautés, c'est que Street Fighter à l'époque proposait en fait beaucoup plus de coups que la quasi-majorité de tous les jeux qu'on avait pu voir jusque-là. Quoi.
Non, mais clairement, vas-y, well cook.
Non, ce que je veux dire, c'est que la vraie nouveauté, le vrai truc impressionnant sur Street Fighter 2, c'était l'interface. Avec son stick et ses 6 boutons, ça pouvait limite faire peur aux joueurs qui ne connaissaient pas vraiment les jeux. Hein.
Ouais, JP Koff.
Je voulais dire qu'il était plus accessible avec les 2 boutons, mais les manips, elles étaient totalement folles, les schnapps.
C'était même que Street Fighter sur le premier.
Non, c'est la folie.
On y reviendra un peu plus tard, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup à dire sur le gameplay.
Ça, entre guillemets, commercialement, c'était un argument qui n'avait pas lieu d'être dit. Quand la personne arrivait et proposait son jeu, en fait, il y avait vraiment le côté, notre jeu, il passe partout. Nous, on a besoin que de deux boutons. Bien évidemment, le jeu n'est pas moins profond. Enfin, on va pas le comparer à Street 2 constamment parce que c'est World Heroes, c'est pas Street Fighter 2. Mais on verra qu'il y a beaucoup de choses qui vont être apportées dans la série à plein de moments. Bon, le premier est le premier, après on verra la suite. Mais il y avait vraiment cette volonté de pouvoir placer leur jeu facilement. Ouais. Et parmi cet argument, il y a eu ce fameux justement jeu de boutons. Et j'étais très étonné de l'apprendre. Donc je suis très content de pouvoir vous donner cette info.
Donc, on dit merci qui ?
Merci TMDJC.
Je vous en prie.
D'accord. Donc, par la suite, au-delà de la motivation des clodos de l'arcade, de la mode de Street Fighter et de choses et de la surenchère totalement gratuite, parce que ça fait un peu série B de l'arcade jusque-là, un petit peu. Ouais, Frio.
Donc, comme on a parlé de pas mal de séries dans les différents podcasts, on a vu que chacun a essayé de se démarquer. Ouais. Le but était de se démarquer.
Mieux ou différent.
Voilà,
ou...
voilà, parce que Street Fighter 2 était allé très, 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 très loin dès le départ. Que ce soit claque, en termes de réalisation, en termes de gameplay. Donc, c'était dur. Soit on essayait de faire pareil, mais en mieux. Soit on essayait de faire quelque chose d'absolument, de totalement original, mais sans trop s'éloigner, parce qu'il fallait quand même surfer sur le succès du genre qui s'était mis en place. Et World Heroes a quand même été un des plus ambitieux, j'ai envie de dire, dans ce qu'il propose. On va revenir après par rapport aux subtilités de World Heroes par rapport à n'importe quel jeu de combat, que ce soit au-delà même du système de combat, mais dans certaines petits détails, ouais, et certaines options que propose le jeu, qui vont vraiment ils n'ont pas révolutionné le genre,
non, pas du
mais
tout.
Ils ont marqué leur époque. World Heroes a marqué son époque, j'ai envie de dire, grâce à ces petites choses là.
La série même était super populaire, hein.
World Heroes était très
populaire. On
l'a
pas assez appuyé dessus, mais c'était super populaire. On adorait jouer à ce jeu là autant qu'on adorait jouer à Street Fighter ou aux autres jeux SNK.
Je peux me permettre d'enchaîner là-dessus. En termes de popularité, justement, World Heroes fait partie des jeux de combat de l'époque les plus populaires. Il même passait devant certains jeux SNK qui étaient peut-être moins accessibles. On a parlé d'Art of Fighting il n'y a pas longtemps. On nous a des fois fait la remarque, dit oui, vous avez dit que c'était un petit jeu des fois qui n'était pas très connu. Mais le fait est que World Heroes était bien plus connu, et ce, tout pays confondu,
populaire,
et beaucoup plus joué que Art of Fighting. On y reviendra. Je ramenais aujourd'hui un document de l'époque.
Tu voudras nous mettre à dos les joueurs d'Art of Fighting.
Mais sans vouloir les mettre à dos, on essaie de remettre les choses un petit peu dans le contexte. Un bouquin qui de l'époque qui proposait en fait d'élire le personnage de jeu vidéo la babe la plus sexy, avec une Chun-Li qui arrive en premier, et Mai d'SNK ne fait même pas partie. À l'époque, donc de Fatal Fury 2, ne fait même pas partie du résultat. En fait, Jane, donc un des personnages de World Heroes, arrive en quatrième position, donc sur 30 personnages, je crois, au total.
D'accord. Bon, bah, comme ça.
Jeu très populaire à l'époque.
Ok. Est-ce qu'on a des noms un petit peu des gens qui ont créé World Heroes ?
Alors, oui, on a des noms. On va surtout parler du premier dans un premier temps. On va parler de Kenshi Sawatari. Ils sont beaucoup plus nombreux, en fait, dans les versions. Le premier, en fait, n'est pas un jeu confidentiel au sens propre du terme, mais c'est une petite équipe en fait. Ça s'est développé en fait surtout à partir du 2. On va y revenir parce qu'il y a eu beaucoup de changements entre le premier et le deuxième.
Ouais, on va faire le point sur le 1 en premier, ensuite on va parler du deuxième.
Et donc là on peut parler donc de la personne qui était en charge donc du coup du projet. On peut dire que le jeu, oui, on n'a même pas dit que le jeu est sorti en 92, c'est peut-être
le 28 juillet
exactement, pour être très clair. Donc là on est clairement sur les traces de Street Fighter 2 ou Street Fighter 2 Dash à l'époque. Le jeu est sorti de mémoire, tu as dit le 28 juillet, c'est ça ?
28 juillet 1992, c'est la date de sortie en arcade au Japon.
Voilà, donc il est vraiment sorti quasiment dans les clous de Street Fighter 2 Dash.
Oui, Frio ? Tu veux dire ? Ah non, j'ai cru. Bah écoute, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la conception du jeu ?
Non, déjà, pour ce premier-là, du tout. Non,
ça d'accord. Bien pour démarrer. On va peut-être aborder un petit peu le gameplay, parce que là, il y a un truc qui m'intrigue, c'est quand même les mecs qui disent « Ouais, vous pouvez acheter notre jeu, ça se joue à deux ou trois boutons. » Alors là, c'est quoi ce jeu où tu peux jouer ?
C'est très simple, tu vas voir.
C'est où tu peux jouer à deux ou trois boutons, selon que ta borne, elle a que deux ou trois boutons.
Alors, j'explique, c'est assez simple. Vous vous rappelez, on avait parlé de Fatal Fury.
Ouais.
Qui avait trois boutons aussi. Point, pied, shop.
Ouais.
En fait, dans World Heroes, c'est le même concept. Il y a point, pied et shop.
D'accord.
Sauf qu'on peut faire la shop avec point ou pied si les personnages ont une shop pied. Ce qui fait que, en fait, le troisième bouton, rajouter juste...
Un peu de confort, un raccourci, quoi.
Peut-être... un raccourci, mais une petite dimension stratégique, en fait. Une chope dans le vent, si elle est faite avec point, ouais, te donne un point.
Oui, normal. Oui.
Alors que si tu l'as fait avec le bouton chope, ça te donne un whiff de chope.
Donc, une petite animation, on peut même dire
que c'est le premier jeu, sauf erreur de ma part, où il y a la chope loupée, non ?
Non, non, c'était Fatal Fury 1.
Fatal Fury 1, tout à fait. Bah, oui.
Donc, en fait, c'était des choix en fait, à faire. Si on ne voulait pas que ça nous donne le coup en question, parce que certains personnages avaient un gros point, par exemple super lent, ou avec un recovery particulier, etc., on favorisait le bouton chope. Mais si ça se jouait qu'à deux boutons, ça ne changeait pas grand-chose aux possibilités du jeu, puisqu'il était toujours possible de choper, etc. Donc en fait, sur ce premier jeu, le troisième bouton était là vraiment en option.
C'est de la décoration.
C'est un peu comme...
c'est du confort, en fait. Voilà, si tu veux jouer à la version Deluxe, à trois boutons, avec la chope sur un bouton, ou jouer à la version de base avec deux boutons.
D'accord.
Sachant que le système reprenait ce qui se faisait souvent à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait deux niveaux de coups, faible et fort, et que si on appuie fort sur le bouton, ça donne le coup fort. Si on appuie légèrement, ça donne le coup rapide.
Il y avait des boutons.
C'est pas tout à fait légèrement fort, c'est appui rapide.
Rapide ou longtemps.
Coup rapide,
ou tu restes appuyé longtemps.
Tu maintiens.
Voilà, ce que j'allais dire, c'est des boutons hydrauliques.
Où tu appuies, c'est le fort, et où tu appuies, où tu ne fais que le presser. Parce que dans World Heroes, le coup faible, en fait, c'est vraiment la presse. Il est plus rapide que Fatal Fury.
En fait, ça calcule le moment de relâchement du bouton. C'est-à-dire que si on relâche tout de suite, ça va faire un faible. Si on maintient, ça fera un fort.
D'accord, ok. Alors, en termes de gameplay général, donc je suppose qu'on retrouve ce qui a rendu Street 2 populaire, donc coups spéciaux comme ça, ou est-ce qu'on va totalement dans autre chose ?
Non, on a exactement donc les bases, une barre de vie, le time over, des coups de base, coups spéciaux, chop, un système de garde haute et basse. Non, en fait, on est vraiment dans le calque de Street Fighter 2, sauf que il va y avoir quelques petites subtilités, on va dire. Au-delà même du gameplay de certains personnages qui est vraiment, vraiment original. Ouais. Donc, on a des clones. On a des mix.
On a des clowns aussi.
On a des clowns. Non, pas de clowns dans celui-là. Il y a des clowns dans beaucoup de jeux de l'époque, mais pas dans celui-là. Par contre, on a beaucoup de mélanges, on va dire. Donc, ça, c'était la technique pour cacher les clones et les copies. C'est qu'on donnait des coups de différents personnages.
On mélangeait deux persos. Ensemble.
Voilà, deux ou trois.
Je vois un Broken sur l'écran juste derrière nous, et là je me dis exactement. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Voilà,
on en parlait tout à l'heure, vous allez bien rire.
Mais
je pense.
Ce qui était très très fort dans ce jeu là, c'est qu'on avait le choix entre deux modes de jeu.
Ah, alors ça m'intéresse.
Oui, je pense que ça va t'intéresser. Ouais.
Alors expliquez-moi, JPKov, tu veux nous expliquer les modes de jeu ou avant, c'est autre chose si on a oublié quelque chose.
Je vais juste dire que les barres de vie elles n'étaient pas de la même couleur. Oui, je sais pas.
Du player 1, du player 2. Hein.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. C'était bleu et jaune, je crois.
Technologie. Hein.
Je peux pas tester. C'est pour se démarquer. Hein. Tu te démarques jusque dans la barre de vie.
T'es motivé ?
Ouais, bon,
je t'écoute,
Frio. Je suis lancé, je continue. Donc, en fait, on avait dit qu'il y avait deux modes de jeu. Mais comment ça, deux modes de jeu ?
Faut dire qu'il y avait des cancels aussi.
Oui, ça, j'allais.
On va venir après, plus dans les détails un peu après.
Donc, alors, dans les deux modes de jeu, on a le mode normal à la Street Fighter 2, c'est-à-dire que chacun a sa barre de vie, ça joue en round avec un time over sur un décor. Et c'est bien précisé ça. Oui, je veux dire, voilà, chaque personnage a son décor, exactement. Classique, mais on a le deathmatch.
Deathmatch.
C'est-à-dire le match à mort. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est là que c'était la plus grande folie du jeu.
Et ils ont fait très très fort. Je me permets de t'interrompre parce que pour moi, là, c'est avec le recul, c'est un des arguments du jeu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouaient à ce jeu-là parce qu'il y avait ce mode-là.
Avant de dire que c'est un mode, laisse-tu dire c'est quoi voilà. Parce que là,
il crée du suspense, il a raison. Qu'est-ce que c'est que le deathmatch ?
Je partage cet avis.
En fait, dans le deathmatch, on prend les mêmes règles, les mêmes personnages, les mêmes coups, les mêmes propriétés, sauf qu'on se bat dans un stage entièrement piégé.
D'accord.
Alors, c'est-à-dire que les bordures du stage peuvent être électrifiées ou avec des pics, il peut y avoir des bombes qui tombent au milieu du stage, il peut y avoir des mines au sol, de l'huile qui fait glisser le personnage. En fait, le stage est bourré de pièges.
D'accord.
Et il faut jouer avec ça. Et en fait, on va essayer de pousser son adversaire dans ces différents pièges pour avoir des dégâts supplémentaires.
D'accord. Avant Samurai Shodown et avant, en représentant récent, c'était les décors qui se cassent dans Tekken ou dans Dead or Alive.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
On est en 92
déjà.
Non, ça peut être juste. Non, c'est ça. Donc en fait, ce que je disais, c'est que le jeu, en fait, était diabolique. Puisque non seulement on devait gérer le personnage, mais il fallait aussi gérer et avoir une gestion de l'espace incroyable. Et chaque stage avait ses propres pièges. Et il fallait gérer des éléments différents.
Je veux dire, il y avait des persos du coup où la tier list a changé totalement. Parce qu'il y avait des gars plus balèzes en deathmatch et d'autres en
normal
match,
ouais.
Comme Kim, comme Dragon, il pouvait se mettre sur le mur en deathmatch, il peut rien du tout.
Il peut rien faire.
Tu peux pas rebondir sur un mur avec des pics où il est électrifié.
Prendre un paratonnerre et tu sautes avec.
Le fait de marcher sur l'huile désavantageait certains personnages mais augmentait la vitesse de d'autres si jamais tu le faisais au bon moment.
Ça pouvait faire les chopes huilées d'Akkad, quelque part, si tu jouais le chopper
avant l'heure.
Ouais. Ah, pas mal. Ouais.
Et donc, en fait, pour l'anecdote, ce qui a fait le succès de World Heroes, par exemple, dans certains foyers, dans certaines salles d'arcade, c'est que des joueurs moins à fond dans le jeu de combat aimaient le côté fun du deathmatch. Par exemple, moi, je jouais avec mon frère qui n'était pas vraiment fan de jeux de combat, mais il adorait jouer en deathmatch.
Parce qu'il
y avait ce côté sauvage, ce côté... Il n'y a pas de règles, c'était un autre concept.
Je préfère le préciser, parce que pour ceux qui nous écouteraient, mais il n'y a pas de sang dans World Heroes. Ce n'est pas gore, c'est du cartoon.
C'est du cartoon, ça reste comme Street Fighter. Voilà. Je veux dire, il n'y a rien de gore. Non.
Ouais, je veux dire, c'est ça aussi le capital sympathie du jeu. C'est le schnapps à son meilleur et du coup, les gens, ils aimaient beaucoup. C'était un des premiers jeux de combat pas sérieux, entre guillemets.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il y avait le mode sérieux.
Ouais, les autres, fallait vraiment jouer sérieux.
C'est vrai que maintenant que vous le dites, dans tous les podcasts qu'on a fait précédemment, on a abordé Street Fighter 2, Fatal Fury, Art of Fighting, Mortal Kombat, etc. Et au final, tous ces jeux se prennent, entre guillemets, au sérieux. C'est-à-dire que le casting est sérieux, que les personnages ont des enjeux monstrueux, que... c'est très sérieux au final. Oui,
ouais, là, tu parles du mode normal comme d'un mode sérieux. Mais en réalité, le jeu, quand tu le vois, il n'est pas sérieux même dans son mode normal. Non, les personnages, ils sont délirants, ils sont originaux.
Encore, on peut dire que dans le premier, ça, on n'est pas trop encore éloigné de Street 2. Mais à partir
du deuxième,
on voit
déjà le caleçon de Rasputin.
On va y venir à Rasputin parce que j'ai une anecdote à vous.
Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que les autres jeux, même s'ils étaient super originaux, innovants ou plein d'autres choses, ou dans l'air du temps, comme on disait. Voilà, il y avait ce côté-là. Mais là, en plus d'originalité, on a vraiment du fun à tous les niveaux, sur tous les personnages,
même
sur tous les coups.
Même dans les décors, il y a des personnages délirants. Enfin, le jeu ne se prend pas au sérieux, déjà, par son concept de base, des personnages réunis de l'histoire, etc. Mais il y avait vraiment, 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 comme a dit Jean Percoff, un capital sympathie. C'est-à-dire que c'était un jeu super fun et super abordable.
Et décomplexé, au final.
En plus de ça, il avait un argument, et ça, je suis obligé d'en parler... Et c'est ce que moi m'a fait jouer au jeu à l'époque.
Attention.
C'est qu'il était impressionnant. Les effets spéciaux qui accompagnaient donc les coups spéciaux et certaines attaques étaient absolument dantesques. Impressionnant. Le dragon punch des personnages de base, de Hanzo et Fuma, c'était magnifique.
C'était un dragon.
Il y avait un dragon qui encerclait le personnage. Voilà. Les effets spéciaux étaient magnifiques. Ouais. C'est un jeu qu'on voyait bouger ou en image, mais dans les magazines, quand tu voyais un screenshot du jeu, il faisait rêver. Il a fait rêver tous les enfants de la Terre.
Typiquement, les boules de feu, il n'y en a pas. C'est toujours un projectile très défini, précis. Ce n'est pas un truc énergétique qui se déplace. Ça peut être un shuriken, un oiseau enflammé.
Quand les personnages prennent feu pour une raison X ou Y, c'est vrai que quand tu compares Street 2 à World Heroes, tout de suite Street 2 il fait un peu kitsch.
Il fait pyrotechnique, comme on peut dire. Mais le jeu avait ça. Non seulement il était sympa, on avait envie d'y jouer, il était fun, délirant, de par ses persos, de par ses modes, de par son accessibilité avec son gameplay à deux boutons. Mais en plus de ça, c'était une gifle visuelle. Ouais. Vraiment une gifle visuelle. Là, ils ont fait ADK. A vraiment, vraiment, vraiment fait fort.
Tu vois, t'as un décor dans un dojo, les gens qui se battent derrière, c'est des singes.
Oui, en kimono.
C'est énorme.
C'est World Heroes. C'est
juste
complètement
pour vous dire,
ça.
On a la télé avec le jeu qui tourne en mode démo, c'est pour ça. Là, on voit des choses extraordinaires. Oui, j'y fais coffre.
Oui, je veux dire, les normaux, il y avait déjà des effets. En fait, c'est ça qui
Il y avait des effets même sur les coups normaux.
Fou, ouais. Genre les mains de Rasputin qui grossissent ou je sais pas, quand il est en stance normale, il fait une boule là, il fait un truc de sa progression, c'est que déjà rien qu'il y avait pas besoin de faire des manips de fou, et tu vois,
de base c'était
magiques,
en plus de ça, c'est un des premiers jeux, il faut le noter, où il y avait des intros de début de combat entre les personnages. C'est à dire que les personnages qui à l'époque de Street Fighter 2 avaient une winning pose, là, les personnages avaient une pause de début de match. Donc, ce qui donnait encore plus de personnalité, un côté plus
ah oui, parce qu'il n'y avait pas de pause de début de match dans les jeux avant. Non, il n'y avait pas les persos qui arrivaient. Hormis peut-être Art of Fighting où ils faisaient hoche et puis ils sautaient en arrière.
Non,
mais
en fait, il y avait juste un bon. Il n'y avait pas d'anime.
Là, ils arrivaient, ils disaient un truc carrément. Donc, en fait, toutes les intros.
Dans le premier Art of Fighting, si tu avais quand même le Ryu qui balançait ses tatanes.
Oui, mais ça, c'était dans le mode story. Voilà. Dans le mode story, c'est vrai.
Donc, là, par défaut, tous les persos ont des intros, on va dire. Et c'est le premier jeu à avoir fait ça, quoi.
Oui, tout à fait.
Et ben voilà, encore un truc, voilà, vous le saurez maintenant.
Comme on le dit, c'est une époque où il fallait créer les choses et du coup, on innovait tout le temps.
Ouais. Et ce qui nous paraît aujourd'hui normal, en fait, c'était une innovation à l'époque.
Et alors, aussi, puisqu'on parle des particularités, ce qui a été à l'époque considéré comme un bug dans Street Fighter 2.
Les combos,
les cancels, pouvoir cancel un coup. Je crois que notre compère Ken Bogard appelle ça les 2-in-1. Je savais pas en fait qu'il parlait de ça. Je vais poser la question directement.
Parfois, il faut parler avec lui pour comprendre.
Ouais, voilà. Donc effectivement, c'est les cancels d'un coup normal par un coup spécial. En fait, dans World Heroes, ils étaient parfaitement incorporés dans
le gameplay. C'était prévu dans le truc.
Ils les ont réfléchis, ils y ont pensé et ils les ont prévus dans le gameplay, quoi.
D'accord. Alors, puisqu'on reparle du gameplay, j'aimerais qu'on parle plus. Bon, on sait donc de boutons, niveau shop. Arrêtez de regarder la télé. Là. Je sais que le stage il est beau, mais quand même.
Il y avait un ring enflammé,
un wrestler allemand dedans, mais bon, tout de même.
Il y a quand même beaucoup de stages. C'était le ring avec une variation dans ce qui faisait la limite. C'était pas vraiment toujours différent.
Alors, en termes de gameplay, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour le premier World Heroes, hormis coups spéciaux, hormis comme ça?
Non. On va laisser JPKoff en parler.
Bah, je pense qu'on a tout dit, les cancels.
Les cancels étaient prévus, la shop.
Le double jump, non?
Non, on n'a pas parlé du double jump.
Il y avait un double jump?
Oui, tout à fait.
En fait, c'est caractère spécifique. Certains personnages pouvaient sauter deux fois.
En gros, par exemple.
Et certains personnages avaient un triangle jump, comme dans Street Fighter. Ouais. En fait, il y avait des déplacements qui étaient spécifiques. Et aussi, qu'on en a parlé.
Ouais, Dragon, c'est que il fait son coup spécial et derrière, il est en l'air et il peut encore sauter sur le mur.
En fait, voilà, il y avait en fait des possibilités de mouvement qui étaient vraiment améliorées. C'est-à-dire que par exemple, Dragon, donc un des personnages du jeu, on va parler des personnages.
Bruce Lee,
voilà, c'est le Bruce Lee, le tout premier, mais on en reparlera un peu après. Ouais. Il a un coup spécial en fait qui s'élève dans le ciel avec un coup de pied du dragon absolument magnifique. S'il touche le bord, il peut rebondir et refrapper. Donc il y avait vraiment il y avait une recherche un petit peu au niveau des possibilités.
D'accord. Il y avait pas de juggle encore.
Et donc il y a une anecdote et ça si je vais on va vous lancer un concours je vous mets au défi sans consulter la command list de la version la compile sur PlayStation, je vous mets au défi de lancer le jeu sur Neo Geo émulateur ou sur board ou ce que vous voulez et de réussir un Dragon Punch avec les deux héros. Voilà, vous posterez au commentaire
vous
du podcast.
Vous
nous direz ce que vous en pensez. Ben, on va pas vous dire parce que c'est ce qui fait tout le plaisir du jeu. Mais il y a quelque chose de très très étrange avec la manip du dragon. Je vous laisse découvrir ça, mais ne trichez pas.
Hein. Ben alors attends, mais moi je sais pas non plus ce que c'est. Donc,
tu testeras ça, Nathan. Tu testeras ça et tu posteras en commentaire toi aussi.
Ça marche. Bon alors, est-ce qu'on a tout dit à peu près sur la création du jeu et son gameplay
On peut dire que dans ce jeu-là, à l'instar de Street Fighter 2, il y avait des bonus stages également quand tu jouais en mode solo et en mode normal du coup. Que dans le premier stage, on construisait une statue à partir d'un rocher, donc il y avait un rocher qui tombait et t'explosais le rocher, puis ça construisait une statue au fur et à mesure. Donc en tapant sur le rocher, quand tu le cassais, tu étais un artiste hein, un petit peu. Bah,
même dans mon école d'art, on n'a jamais essayé de faire ça. Tu vois.
Tu n'es pas un World Hero.
Tu n'es pas détruire quelque part.
Si, tu détruisais le rocher pour tu sculptais.
Voilà. Destruction et création dans le même coup. Attention.
C'est l'anarchie.
Et dans le stage 2, en fait, tu cassais des pots de porcelaine qui tombaient. Mais alors, ils ne tombaient pas toujours de la même manière. Des fois, ils s'arrêtaient, des fois, ils roulaient. Donc,
la gestion du
cassage de pots était intéressante. Du coup.
La gestion du cassage de pots. Heureusement que le podcast, il faut l'écouter dans son ensemble.
Si t'arrives au milieu,
voilà, quoi.
J'ai des problèmes aujourd'hui de gestion de cassage de peau.
Rasputin, d'ailleurs, il devait casser des peaux. Hein.
Ouais. Tiens, puisqu'on parle de Rasputin, on va commencer.
On va enchaîner sur les persos.
On va enchaîner sur les persos parce que le temps file, mine de rien. Déjà plus de 30 minutes sur l'Andiro. Donc, alors, au début, il y avait eu 8 persos, si je me souviens bien. Donc, c'était pas mal hein, pour 92, 8 persos. C'est propre.
C'est Street 2.
C'est la norme.
Voilà. Donc alors, on va commencer à parler des personnages. Dites-moi, allons-y, liste. Oui, la liste des personnages.
On va tourner, je pense.
J'ai la liste, si tu veux.
Alors, les deux héros, on va commencer par les deux héros.
Enzo et Fuma.
Alors, il y a quelque chose à dire, je ne sais plus sur lequel. Sur Enzo ou Fuma, il n'y en a pas un qui vient d'un autre jeu ?
Non,
je me suis trompé.
Non, mais Fuma est apparu dans d'autres jeux.
Voilà, d'accord, ok, je confonds.
En fait, Enzo et Fuma, c'est les deux ninjas légendaires des clans qui ont. C'est des personnages historiques qui ont réellement existé.
Ah, d'accord,
Japon.
Moi je pensais que c'était juste des ninjas parce que.
Enzo, qui est Hattori Hanzo.
D'accord.
Qui est censé être Hattori Hanzo, ce fameux ninja légendaire qui est réapparu dans des jeux divers. Et qui est d'ailleurs dans son incarnation plus connue, celle de Samurai Spirits. Parce que quand on parle d'Hattori Hanzo, on pense directement à celui de Samurai Spirits. Mais le Enzo de World Heroes, eh bien Enzo Hattori aussi. Et on a Fuma, qui est un représentant du clan Fuma, des ninjas Fuma. C'est des personnages donc,
qui historiquement, d'ailleurs, normalement, est censé avoir tué Enzo, si je ne dis pas de bêtises.
Peut-être, je n'ai pas trop cherché. Alors, c'est des Shoto, donc tout le monde sait de. Aujourd'hui, on peut dire que tout le monde sait ce que c'est qu'un Shoto.
Ouais,
c'est-à-dire
un personnage avec un dragon.
Avec une boule, un dragon et un Tatsu.
C'est clair.
La seule petite différence, c'est que ces personnages-là avaient une super boule.
Une super boule. Alors, qu'est-ce que tu appelles une super boule ?
En fait, c'était le premier jeu où tu avais la manipulation où tu faisais deux quarts de cercle et non pas un seul. Et en faisant deux quarts de cercle point, ils envoyaient.
Deux
projectiles en même temps, ça faisait un gros projectile.
D'accord.
Donc, le start-up était plus lent, le démarrage du coup, mais tu avais un effet plus gros sur l'écran et plus de dégâts.
D'accord. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure en jouant à World Heroes, c'est que tu n'arrives jamais à le placer.
Tout à l'heure, oui, c'est vrai, je disais ça. En fait, c'est vrai. Peut-être que, si je ne dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr, c'est le premier jeu à avoir mis cette manip, qui a inspiré par la suite Capcom avec ses super deux quarts.
Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il me semble bien que c'est le premier jeu où tu as deux quarts de cercle enchaînés pour.
Si vous êtes d'accord, c'est sans doute
pour un coup plus fort que le coup normal.
Donc
avec
là,
un
on avait déjà un petit. Donc on avait déjà, comme j'ai dit, les Dragon Punch qui étaient plus impressionnants avec cet effet du dragon, etc. Même le Hurricane Kick était plus impressionnant, il mettait plus de coups, il traversait plus. En fait, tout était surenchéré, mais en plus de ça, ils avaient la super boule pour être encore plus fort que Ryu et Ken. Parce que non seulement ils ont leur coup en mieux, mais ils ont un super coup que ni Ryu ni Ken n'a. Et c'était ça qui était fort à l'époque. C'était que, ok, on fait des Shoto parce que de toute façon, dans tous les jeux de combat, c'était la norme. Et que pour que tout le monde ait un personnage de référence, c'était ça le principe. C'était qu'un joueur de Street Fighter 2, s'il était perdu, pouvait toujours se retrouver grâce au Shoto.
Et un joueur de Street Fighter 1 qui était perdu pouvait se retrouver
dans
avec
tous les cas,
Street Fighter 2.
Donc c'était pour ça que les. En fait, c'était pas par flémardise que les développeurs à l'époque mettaient des Shoto. C'était pour qu'il y ait des personnages de référence. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais joué puisse s'adapter et connaître le jeu en jouant un perso qui s'éloigne pas trop des normes qu'il connaît. Mais ces personnages-là avaient leur petit truc en plus. Alors, juste pour finir pour Enzo et Fuma, sur le papier, en dehors des animations, des phrases de victoire, du nom de leurs coups spéciaux et de leur. Même pas skin, mais juste de leur tête, de leur pose, pose de victoire.
Et encore leur tête, oui, c'est juste les couleurs, parce que même sur le premier, les têtes, c'est les mêmes.
C'est les mêmes. Ils avaient exactement le même gameplay.
C'est pareil, quoi.
Ils ont la même tête dans l'artwork. Ils sont identiques en tout et pour tout, mais il existe différence.
Toi, tu nous as fait du teasing avant qu'on commence à enregistrer. C'est quoi la différence entre
Enzo
et Fuma ?
Le saut gros point de Enzo a une animation différente de son saut petit point, alors que Fuma a la même animation sur son saut petit point et son saut gros point. Ils ont les mêmes propriétés, c'est juste que Fuma tape avec la paume de sa main, tandis qu'Enzo ferme le point. C'est exactement la seule différence qu'il y a entre les
deux. C'est une erreur de programmation.
Vu qu'ils ont dessiné le sprite, ça m'étonnerait.
Fuma a le même sprite sur le petit et le gros.
C'est la ligne de code, tu vois. Il a peut-être rippé, il s'est trompé.
C'est gouré de ligne de code.
Je pense qu'en fait, juste ils ont oublié de le mettre à Fuma, je crois.
Ouais, tout à fait.
Parce qu'en fait, dans le jeu, il y avait déjà les sauts sur place et les sauts en avant-arrière étaient différents. Donc c'est pareil comme dans Street 2. Mais pour Fuma, il a la même animation sur le saut petit point, le saut gros point. C'est pas le même coup, il n'a pas les mêmes propriétés, mais voilà. Donc, parce qu'on a cherché en fait les différences entre les deux persos et on a fini par
en trouver une.
Bravo.
Pas mal.
Donc je laisse.
Enzo et Fuma, les deux premiers personnages. Donc
Kim Dragon,
vas-y, épate-moi, je parie.
Non, moi je vais pas t'épater avec Kim Dragon. KJPKOF, Kim Dragon.
Vas-y, Kim Dragon.
Mais d'ailleurs, je me demande s'il s'appelle vraiment Kim Dragon déjà dans le 1.
Ouais, il s'appelle Kim Dragon.
Je crois qu'il s'appelle juste Dragon et il est chinois. C'est la Chine, ça.
Ouais, a priori, ouais, c'est la Chine. Ouais.
Les Chinois, c'est après, il s'appelle Kim.
Et après, il s'appelle Kim Dragon et il est
et
coréen.
Il se souvient qu'il est coréen ou je sais pas. Ou...
Il se souvient qu'il est coréen.
Oui, c'est tout à fait ça.
Il a retrouvé son papa et il est coréen et il a voulu changer de nationalité, je sais pas.
D'accord. Et donc, c'est un pastiche de Bruce Lee et de Fei Long.
C'est
gros,
le gothier du jeu.
Alors,
déjà,
puisque tu parles de Fei Long, il faut le noter.
Ouais.
C'est le premier. Oui. Bruce Lee, des jeux de combat.
Ah bah oui, Fei Long,
non, Fei Long est arrivé après. 94.
Fei Long a été complètement pompé sur Kim Dragon et tous les autres Bruce Lee qui ont suivi.
Fei Long est arrivé
les
avec
Jan Lee,
The
les
Lo,
etc. C'est des copies de Kim Dragon. C'est-à-dire qu'ils avaient eu l'idée, c'était les premiers, de prendre un vrai personnage qui était connu et de le mettre dans un jeu.
Est-ce qu'il était vivant? Non, il était mort déjà.
Ah oui, il était mort.
92, oui. J'étais parti encore dans les années 60.
Création âme.
Ouais.
Donc c'était quand même assez, assez culotté pour l'époque. Après, on a eu des copies de Jackie Chan, etc. Mais c'était quand même assez culotté de prendre carrément Bruce Lee et de le mettre dans le jeu, de l'appeler Dragon. Et parce que Bruce Lee, son nom chinois, c'est Petit Dragon.
Ouais.
Donc il y a vraiment, il y a pas de, il y avait pas d'embrouille. Et c'est pour ça peut-être
chinois,
que c'est peut-être pour ça que par la suite, dans le World Heroes qui a suivi, ils l'ont renommé Kim Dragon, ils l'ont mis coréen pour rendre quand même
pour éviter
voilà.
Ah oui, alors ils se sont dit, il faut qu'on fasse comme Bison, Vega et Balrog dans Street, il faut qu'on ait nous aussi notre...
Voilà, c'est ça.
Les notre caractères chinois pour écrire son nom, du coup, ça se traduit par Gold Dragon.
Gold Dragon, ouais. D'accord.
Et, alors... et pour la petite histoire, effectivement, pour ADK, il est bien coréen, même si dans le premier, en fait, il est marqué comme chinois.
D'accord. Alors on va continuer un peu plus rapidement.
Ah, ensuite, il y a Jeanne.
Jeanne, alors c'est qui Jeanne?
Jeanne, c'est un personnage français.
C'est ça, elle est française, Jeanne?
Elle est française, Jeanne.
Elle est
bon, il y a une petite faute d'orthographe dans son prénom parce qu'ils ont oublié un E.
Mais... Oui, ils ont mis Jeanne, J-A-2-N-E.
Voilà, c'est ça. Donc, a priori, qui serait inspiré de Jeanne d'Arc.
Complètement.
Alors, c'est un perso que moi, j'aime beaucoup parce qu'il se balade en armure de plate, déjà. Et en plus, elle se bat avec une épée bâtarde.
Alors, c'est quoi une épée bâtarde pour
si on appelle ça aussi une épée à une main et demie, ça veut dire que tu peux la tenir à une main ou à deux mains. Tu peux te battre avec les deux styles de combat. Donc ça, c'est la définition de l'épée bâtarde.
C'était mon personnage préféré. Moi.
C'est toujours mon personnage préféré.
Je t'ai vu jouer tout à l'heure, elle avait l'épée qui se transformait en fouet.
Oui, non, ça, c'est dans le perfect seulement.
C'est dans le perfect seulement, oh là là, d'accord. Donc,
non, ce qu'il avait stylé...
C'est le seul personnage féminin du jeu aussi.
C'est le seul personnage féminin du jeu. Elle a une poitrine animée, ce que n'avait pas Chun-Li à l'époque.
Alors qu'elle est en armure. Hein.
Alors qu'elle est en armure, c'est ça que je voulais, voilà, je voulais préciser. Merci.
Accessoirement, on peut aussi se dire qu'elle se bat avec une arme, ce qui n'était pas si courant que ça à l'époque. D'ailleurs, la plupart des...
Non, la première française de l'histoire,
si
c'est King.
Il y avait eu King dans Art of Fighting avant.
Ah, c'était déjà ça en 92.
Oui.
Ouais.
Bon, à peu de choses près, on va dire que c'est la deuxième alors.
Voilà.
Est-ce que King était française à l'époque?
Je crois pas. C'était pas précisé.
Pas ça, elle vivait à Southstone.
C'est toujours
c'est
pas
sûr.
Vraiment précisé. On sait qu'elle bosse dans un restaurant français.
C'est précisé où dans quel jeu du coup? Précisé dans le All About. Elle est française.
D'accord. Alors Jeanne, donc qui se battait avec une épée.
Une épée qui a des coups qui ressemble beaucoup à Guile dans ses coups spéciaux. Donc elle charge, elle fait une boule, elle fait un flash kick.
Flash Sword,
plutôt.
Qui ne décolle pas, hein, qui ne décolle pas du sol.
C'est vrai, elle avance avec en mettant un coup sur la tête de l'adversaire. Donc voilà, donc pas forcément le plus riche des personnages, mais qui était super sympa à jouer et un design super
intéressant. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, qui était un personnage que les fans adoraient, puisque c'était une des babes des jeux de combat de l'époque.
En même temps, c'est pas comme si on avait beaucoup.
Non, mais le fait est qu'elle avait marqué les esprits.
Mais c'était quelque chose, pour moi, parce que quand j'étais plus jeune, en fait, les personnages féminins, on n'aimait pas trop ça quand on était encore plus jeune, on voulait jouer les Ryu, les machins.
Non.
Mais ils ont réussi à rendre un personnage féminin intéressant parce qu'elle a une armure. À l'époque, avoir une armure, c'était synonyme de charisme total.
Toujours c'est aujourd'hui,
toujours tu sais. D'ailleurs, c'est vrai. Et elle avait une épée et franchement, elle avait quelque chose. Elle avait quelque chose de plus que les autres personnages féminins.
Il y a plus de charisme encore que celui qui a une armure. C'est celui qui a une armure et qui la retire. Demande à Crozer.
Ah ouais, je sais. C'était tellement stylé. Je suis chéru.
Et après, on dit que c'est moi qui lance des débats à la con.
Il va falloir. Non, mais de toute façon, on fera un Dominique Dupuis. Personnage
suivant.
Sur les armures. Donc, personnage suivant.
J-Karn.
Oula, c'est quoi ça?
C'est Genghis Karn.
Genghis Karn. Donc, on le rappelle.
Comme les célèbres chanteurs.
Ouais, Genghis. Non, mais faut pas me faire des trucs comme ça. C'est censé être un podcast sérieux, ça.
Rasputin, quelque part.
Ah oui, c'est vrai, mais on va y venir.
Ça veut dire Moscou, que je pense qu'ils ont fait leur Genghis Khan en connaissant le groupe aussi. Hein,
ouais,
parce que
ils disent vaguement basé sur, on est d'accord.
Ouais.
Hein, y a une,
d'accord.
Parce qu'il y a un coup spécial de race machin, c'est un peu la Corée.
Ah, on arrive. Alors, Genghis Khan, rien à dire de plus, hormis qu'il est copié sur un grand chinois, un grand barbare qui a conquis la Chine.
Mongol.
C'est un mongol, c'est pas un chinois. Révise tes cours d'histoire.
J'ai dit un grand barbare, voilà.
T'avais des chinois, t'as entendu.
Je me suis trompé, j'ai rectifié. Alors, c'est marrant parce que parler de World Heroes, c'est impossible d'être sérieux.
Bah non, complètement pas.
C'est bien aussi.
C'est le gros bourrin du jeu, en fait. Ouais. C'est le lourd. C'est un peu, je vais pas dire le Blanca du jeu. C'est-à-dire que c'est le perso lourd.
Ouais, un peu quand même.
Ouais. C'est le perso lourd, puissant. Mais c'est pas le chopper encore, hein, on est pas, c'est qu'il a la mobilité quand même, il a des coups spéciaux avec grande mobilité, mais c'est le personnage qui fait de gros dégâts en étant lourd.
D'accord.
On va dire c'est ça.
Alors ensuite,
Muscle Power. Est-ce qu'on a un fan de catch ici pour nous parler de Hulk Hogan ?
Muscle Power, c'est bien le mec en slip blond moche et
c'est
un peu
le catcheur en slip
c'est
américain.
Hulk Hogan. C'est Hulk Hogan, tout simplement.
Ils ont ces chops sont pompés des coups de Hulk Hogan qu'il fait dans ses combats. J'y back off.
C'est pas un des surnoms de Hulk Hogan
Muscle Man ? Ouais. Ah. Possible en effet. C'est ça.
Moi je suis pas assez fan pour vous dire.
Muscleman était un pseudonyme de Hulk Hogan. D'accord.
Il est clairement inspiré. Il a la même coupe de cheveux, la même allure, la même carrure, d'accord. Les mêmes slips. Il n'y a pas de doute à voir dessus. Pour les fans de catch, je pense que c'était une référence qui a dû les faire rêver.
Pourtant, tu le regardes le perso, sérieusement, il est moche quoi.
Mais non,
Hulk Hogan n'était pas non plus
super beau à la base, oui.
Voilà, c'est-à-dire que non, il est bien fait.
Il dégage une certaine animalité, une certaine force. Donc ensuite, après Muscle Man.
Ah, ton perso chétif.
Rasputin.
Broken.
Ah, Broken. Oh là là, Broken. Alors, Broken. Ouais.
En fait, non, juste pour revenir sur Muscle Power. En fait, il y a une moustache. Alors, qui a fait beaucoup de polémiques à l'époque.
Pourquoi ?
Parce que certains la voient, d'autres ne la voient pas, et elle a disparu par la suite.
Ah ouais, d'accord.
Il faut expliquer qu'elle est couleur chair, c'est pour ça qu'on a du mal à la voir.
Voilà. En fait, elle est couleur chair, ce qui fait que c'est très 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 difficile à distinguer, mais en fait, avec la moustache, c'est complètement Hulk Hogan, copié-collé. Et après, elle a disparu, donc il y a des gens qui disent qu'ils l'avaient dans le 1, qu'ils ne l'avaient pas, c'est difficile à distinguer.
Et qu'ils l'ont enlevé hein.
Voilà, c'est comme Kim Dragon qui devient coréen.
Alors ensuite, on a dit Broken. Alors Broken, lui, franchement, je trouve que ce personnage, il est extrêmement surpuissant. Alors, qui veut en parler, à moins que je le présente
Vas-y, fais-toi plaisir.
Le premier, c'est pas le pire, mais ça devient...
Après, ça devient fou. Mais alors celui-là, il est quand même caractéristique, quoi. On va dire que c'est un... Terminator c'est un nazi Terminator au membre qui s'allonge, voilà.
C'est un bon à rien.
Donc voilà, il a la tête d'un bon officier SS, il a le costume de l'officier SS, il a le drapeau sur le select screen, et c'est un robot avec des membres qui s'allongent, c'est
un
ça
cyborg,
un cyborg. Qui.
Ouais, il y a certains fans qui disent qu'il serait plus ou moins basé sur Strodheim de Jojo Bizarre Aventure, donc voilà, c'est un débat, il y a un débat là-dessus. Ils sont pas d'accord.
Sachant que quand tu le vois comme ça, tu te dis, bon, il ressemble un petit peu quand même à juste un militaire. Puis en fait,
il jette des missiles de ses genoux. Il a le membre qui s'allonge donc à la Dalsim. En fait, c'est un
électricité aussi.
Il a le psycho crusher
et le Nipress de dictateur aussi. Donc en fait, c'est une sorte de mélange de dictateur, Dalsim, Sagat avec un peu de Blanca pour l'électricité. En fait, c'est un personnage qui mélange à peu près tout genre. En fait, partant du principe que il n'y avait pas encore eu de cyborg. Dans les jeux de combat. Donc comme c'est le premier cyborg, on peut lui donner tous les pouvoirs qu'on veut.
Normal. Ouais.
Il peut tout faire. Il peut voler. Donc on peut lui donner un psycho crusher. Il peut jeter des missiles. Il peut faire de l'électricité. En fait, c'était un peu un personnage fourre-tout. Mais en fait, ils se sont donnés à cœur joie. Ils ont dit, waouh, enfin. Alors, les autres, ils devaient faire des karatékas. Ils étaient dans le machin, des sumo, des trucs. Là, on a un cyborg. Il peut faire ce qu'il veut.
En plus, il sera nazi, tu vois.
Il sera nazi complètement.
La race supérieure.
Bah voilà, c'est ça. C'est complètement ça.
Grandiose.
Et ensuite, il nous reste le dernier personnage jouable, sans doute le plus charismatique de tout le jeu.
De toute l'histoire du jeu de combat, même.
On n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est Rasputin.
Alors, avant qu'on parle de Rasputin, je dois lancer un appel à deux personnes qui peut-être nous écoutent. PE et Kongster, je vous déteste pour avoir joué pendant une heure à Rasputin en 2007 pendant une session Guilty Gear.
Il était hier à Kongster, tu l'as raté.
Oui, je le vois souvent. Mais en gros, ils ont tellement joué sur un ordi avec des enceintes pourries qu'on n'entendait que les digits et elles sont super angoissantes. Surtout quand tu essaies de dormir. Donc Rasputin, c'est qui, en gros ?
C'est un philosophe russe, au départ, on peut dire.
Voilà, qu'il a un peu une allure de moine dans sa tenue.
Ouais.
C'est censé être un sorcier légendaire de la Russie aussi. Il faisait des trucs maléfiques. Il n'a pas copulé avec la princesse ou la reine.
Il y a plein de trucs.
Il y a une histoire, il est un peu occulte, quoi.
Ouais, d'accord.
Dans le jeu, il n'est pas qu'un peu occulte. Dans le jeu, il est complètement.
Les joueurs, c'est quand même. Je sais pas s'il est gay officiellement, mais.
Ah bah, y a, alors, Rasputin a existé. Non, ça, après,
il est peut-être pas gay, mais en tout cas, il est très village people hein, dans son approche.
Ce qui est sûr, c'est qu'il est disco. Après, est-ce que le disco c'est gay, c'est un autre débat. Hein. Mais il est complètement disco. Hein.
Alors, en fait, c'est quoi ses pouvoirs
c'est original. Plein, mais ouais, non, là, pour le coup, vraiment complètement original.
Tout à fait. Ouais.
Alors, vas-y, un peu de sérieux. J'essaie de parler dans mon verre d'Oasis plutôt que mon micro. C'est
il a, bon, il a un tatsu dirigeable là, une sorte de tatsu dirigeable avec sa cape. Et on voit son caleçon.
Alors, on précise, en fait, il se met genre en mode tout droit et il tourne sur lui-même, en gros, comme un Michael Jackson ou une Marilyn Monroe. Et il y a la robe, sa robe qui remonte et il frappe et avec sa robe. Quoi.
Et on voit son caleçon.
Et on voit son caleçon.
Donc, pour tous les amateurs de perso en short, ils peuvent jouer à Rasputin.
Voilà, voilà, c'est un perso en short. Bizarrement.
Et il a aussi...
Il a, bah, faut dire déjà, les normaux, ils sont complètement fous de
Il a le pouvoir de la philosophie.
C'est...
Quoi.
C'est... En fait, c'est ses mains et ses pieds. En fait, ils grandissent. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, ses coups, en fait, là où Dalsim rallonge ses membres, lui, il les agrandit.
Ouais, c'est un peu fait grossir.
Voilà, là, il fait grossir ses membres. En fait,
on parle bien des mains et des pieds. Hein, voilà.
Bien sûr.
Pour les gens qui viennent de prendre le podcast en route.
Voilà. Pour un exemple qui peut parler aux gens, c'est un peu une espèce de Green Lantern. C'est-à-dire qu'il a la capacité de générer des éléments de son corps beaucoup plus gros. Il donne un coup de poing, tu peux avoir un poids normal si tu fais le faible, et tu peux avoir un gros coup de poing surdimensionné jaune en lumière qui donne un coup. Pareil pour le pire.
C'est impressionnant.
C'est le pouvoir de la philosophie. Quoi.
C'est hors norme.
Il a une boule en l'air le aussi, je sais pas si ça...
C'était une première, c'était une première.
C'était
une première,
c'était une première. Ouais,
voilà. La fameuse boule en l'air
pas
dans Diagonal.
Dans
le 1, je sais plus. Attends, Art of Fighting, Ryu.
Non, c'est Art of Fighting 2. Hein.
Ah ouais, d'accord.
La boule en l'air, you are sure.
Mais Jeez n'avait pas sa boule en l'air aussi à l'époque?
Non pas plus. Encore. D'accord. Non. Fatal Fury spécial. Hein.
Ok, bon. On y reviendra un jour sur Fatal Fury spécial. Donc voilà, un personnage. Les deux derniers, on a quand même fait un listing. On est parti doucement avec des petits ninjas. Et puis au final, on a fini avec un dictateur cyborg nazi et un philosophe sorcier village people. Donc, c'est
qui fait la pose de Marilyn Monroe quand il gagne.
Voilà,
avec la main sur la robe avec le vent en dessous. Non mais ce personnage est. Il est incroyable.
Ça chope avec où il prend le mec dans ses mains géantes.
Tu voyais ça chope dans un magazine, c'était fou. Fallait le jeu, c'est n'importe. Et d'ailleurs, cette chope là, ils ont repris dans Street X, hein,
complètement
Dalsim
qui refait la même chose, qui grossit ses mains lui aussi, qui attrape comme.
D'ailleurs, je pense qu'il faudra faire un podcast Street X.
Ah mais ça viendra, c'est tout à fait prévu.
Parce que c'est le meilleur jeu de la terre, tout simplement.
Est-ce qu'on fera un podcast Dragon Ball?
Oui,
on fera aussi.
Chouette. On fera un podcast. Wow. Alors, on va.
Les jeux Dragon Ball.
Ouais. Par contre, on va avancer un petit peu, arrêter un petit peu le hors sujet. On va passer à World Heroes 2, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur
on n'a pas parlé des boss.
Ah oui, pardon. Vite. Alors, vite fait les boss. Vas-y, dis-moi, parce que tout à l'heure il y avait un débat. Gigus. Alors, ça veut dire quoi, Gigus?
Je crois pas que ça.
C'est pas la contraction de Jesus, mais avec un G à la place de.
Ah, c'est possible ça, ouais.
Je demande.
Ouais, ça ressemble un petit peu.
Ou alors c'est le mélange de Jesus, de Jesus Howard et de Jésus.
C'est Jesus.
En fait, on va dire aussi, surtout, que c'est le premier. Pas personnage escroc, mais. en fait, c'était une bonne arnaque à l'époque qui était impressionnante. En fait, à cette époque-là, on ne s'en rendait pas compte. Mais le pouvoir de ce boss, c'est qu'il avait la possibilité de devenir n'importe quel autre personnage du jeu. En fait, il pouvait faire les coups de tous les persos des jeux.
En fait, les développeurs ont dit que c'était un hommage au T-1000.
Oh là là, ah oui, d'accord, ils ont fait le T-800 avec Broken et ensuite...
Voilà.
Ils se sont dit avec Mortal Kombat, en plus c'était facile et pratique.
Voilà, donc à l'époque, ça paraissait surpuissant, c'est-à-dire que non seulement le boss, c'est le boss, mais il a les coups de tous les persos du jeu. Mais en fait, personne ne s'était rendu compte à l'époque que c'était une escroquerie et qu'en fait, ça faisait des sprites en moins à dessiner puisque c'était que les sprites des autres persos.
Surtout que maintenant, il y a plein de jeux qui le font. Et on est tous là, c'est l'arnaque.
C'est de l'arnaque. Mais à l'époque, c'était impressionnant. Moi, à l'époque, ce boss-là m'impressionnait 100 fois plus que Dictateur qui. Le concept est plus impressionnant. C'est-à-dire que tu joues contre tous les persos du jeu en un. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. C'est celle. En fait, c'est celle de l'époque.
Ouais, voilà, c'est un peu ça.
C'est le poivre. Ouais, bah, j'imagine. Hein.
Bon, alors on passe à World Heroes 2. Alors, World Heroes 2, qu'est-ce qui change en termes... Je pense qu'on garde le même principe. Doc Brown va encore chercher
toujours
d'autres
pareil,
personnes.
Toujours pareil. Donc, juste comme on a dit, les personnages qui étaient un peu trop ressemblants à des personnages qui ont réellement existé, avec, qui eux sont encore connus ou médiatisés, ils ont été un petit peu modifiés. Donc, comme Muscle Power qui perd sa moustache de manière officielle, et Dragon qui devient Kim Dragon et qui se rappelle qu'il est coréen, ou il a demandé la nationalité. Il s'est peut-être marié, hein. Peut-être avec une coréenne, il a pris les papiers. Hein.
Ça s'analyse.
Pour quitter le pays, ouais, c'était pas
Corée
évident.
Corée du Sud, hein. D'accord.
Corée du Sud. Hein. Corée il n'a pas quitté la Chine Corée pour aller en Corée du Nord. Hein. C'est... La mère, il n'a pas compris. Hein.
Ok.
Attends. Donc, si, il y a un truc aussi par rapport au gameplay, c'est le bouton C qui change.
Il y a plein de choses.
Excusez-moi. Prends le temps. Alors, sinon.
Le console, le screen select, il est.
Ouais, il est classe.
Il est magnifique. Hein.
Alors, est-ce qu'on peut.
Il y a leur profession.
Et donc, tu remarqueras, il y a bien K Dragon écrit.
Ouais, profession.
Attends, une
tu vas avoir du mal à récupérer le micro, là.
S'il vous plaît, messieurs, on lâche le select screen de World Heroes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à noter dans la réalisation ou autre de World
ouais,
Heroes.
Deux petites choses pour la création du jeu.
Ouais.
Le premier World Heroes a bien marché.
D'accord.
Donc ils ont enchaîné le deuxième très vite.
Il est sorti en quelle date
mais le développement en fait a commencé relativement vite. Il y a eu une pause. Je ne connais pas la raison de la pause du développement de ce jeu. Et le jeu est sorti en 94, soit 2 ans pile poil après.
En 94
le 26
ah non,
avril 93.
Jet, pardon, excuse-moi, c'est moi qui...
C'était mon anniversaire.
Hein. Oui, alors...
T'es passé au Jet,
au
là.
Au Jet, c'est... directement, mais oui.
26 avril 93 pour le World Heroes 2.
Pour ça, en plus, il n'y a pas de cohérence avec le...
C'était pour mes 9 ans, en fait, que je l'ai sorti.
La chance que la grande classe.
T'avais une OGO à l'époque
non, pas encore.
Alors, vas-y, dis-moi.
J'avais une Super Nintendo.
Donc, on disait, voilà, donc, sortie du jeu en 93, pardon. Et on peut dire que l'assistant directeur, c'est Ono.
Quoi?
Oh non!
Attendez,
oh
non, attendez, ça va 5 minutes parce qu'il y en a 3 qui rigolent parce qu'il y a marqué profession Viking.
Élique, profession Viking.
On reviendra sur les professions.
On se concentre. Donc, Ono profession a bossé sur World Heroes.
Ah, il a bossé sur World Heroes, alors, il était assistant directeur à l'époque.
Je précise, Yoshinori Ono, c'est le mec qui a relancé Street Fighter avec Street Fighter 4, donc en 2008.
Exactement.
Voilà, et il faut croire qu'il n'a rien appris à l'époque.
Et qui est un peu débile.
D'accord, bon comme ça, c'est marrant.
Makio Shiba Ouson qui a bossé sur plein d'autres jeux, d'ailleurs, soit en passant, c'est toujours Kenji Sawatari qui est aux commandes du jeu au départ. Ouais. Et donc l'équipe est un poil donc plus importante. Et l'idée, c'était vraiment, il y a eu Street Fighter, puis Street Fighter 2. Ils ont eu leur World Heroes. Ils savaient ce qu'ils voulaient mettre en place. Là, World Heroes 2, c'est on est parti quoi.
Et là, contrairement à Street Fighter 2 Dash, 2 Turbo, etc.
Ouais.
Eux, ils ont dit, on va faire World Heroes 2.
Deux.
C'est-à-dire qu'on va réellement proposer suffisamment de contenu en plus.
Il faudra qu'on fasse une thèse un jour sur pourquoi Street Fighter a eu tellement de mal à passer au 2, au 3, au 4.
En même temps, il y a eu un Street Fighter et un Street Fighter 2. Donc
Pas le même versus.
Voilà.
Hein.
Alors, est-ce qu'on peut parler du gameplay parce que le temps file.
Déjà, avant de parler du gameplay, je veux dire que déjà, c'est le premier jeu de combat proposant autant de nouveaux persos.
D'un seul coup.
6 nouveaux persos. C'est-à-dire que la surenchère, elle s'est faite.
Donc on arrive à 14 personnages en tout. Quoi. J'avoue que 6 personnages, c'est vrai que même maintenant, on voit difficilement, on voit difficilement autant de personnages originaux arriver dans un jeu. En fait.
Et originaux, alors là, pour le coup, complètement originaux. Oui. Hein.
Ouais,
là,
on va y revenir, mais.
Là, c'est la folie totale, c'est fini. En fait, on avait Hanzo et Fuma, etc., qui étaient des petites copies, mais là, c'est terminé. Là, on rentre dans l'originalité la plus totale, que ce soit en termes de design ou en termes de gameplay.
Bon, alors écoute, allons-y pour les persos.
Juste pour Hanzo et Fuma, on avait oublié de le préciser, mais leur design, ça fait vraiment penser aux séries Sentai de Ninja, quoi. Ils ont vraiment le look de l'époque.
Ok, alors allons-y pour les persos, un peu rapido. Donc, je vois qu'on est.
Gameplay ou perso?
Alors, le premier nouveau perso.
Personnage pour commencer.
Il y avait, hop, je retrouve ma liste, Captain Kidd, on va commencer par
Captain
plus
Kidd.
Captain Kidd, qui est le pirate, le fameux pirate Captain Kidd.
Attendez, excusez-moi, il y a un pirate d'environ 40 ans sur la télévision, là, et il s'appelle Captain Kidd.
Son pays, c'est un drapeau de pirate.
Voilà.
Quoi,
c'est... Même temps, c'est un pirate, il n'a pas de pays. Quoi.
On le précise
normal,
sur le select screen.
Mon personnage préféré de World Heroes 2, d'ailleurs.
Oui, mais
on le précise sur le select screen. En fait, on a l'image du personnage, son nom, son métier, sa profession et son pays. Quoi.
pirate est bien pirate. Hein.
Voilà, et donc en gros, Captain Kidd et sa profession, c'est marqué pirate.
Il n'a pas de modèle particulier, voilà. Captain Kidd.
Non, absolument pas. En fait, il se joue. En fait, c'est la première fois.
Il est hallucinant, ce perso.
C'est un personnage à charge. Donc ouais. Au début, quand tu le prends en main, tu charges arrière-avant, ça envoie un requin horizontal. Oui, il jette des requins d'eau.
Des requins
si d'eau. Tu fais,
je fais une toute petite parenthèse, mais la première fois que j'ai vu ce jeu, c'était dans un bar. Et quand tu vois ce personnage lancer des requins qui sont énormes à l'écran, c'est vraiment énorme. C'est vrai que tout de suite, les boules de feu de Ryu à côté font un petit
peu rigolo. Hein.
En même temps, t'envoies un requin, quoi.
Donc il envoie un requin.
Qui te maintient en plus. Mais
ouais, ça faisait une anime de ouf.
Le requin bouge et quand il te mord, il te mord. Et quand il touche dans la garde, c'est de l'eau en fait, il coule.
D'accord.
Et c'était impressionnant pour l'époque. Ouais, voilà. Donc, on dit charge arrière avant. Requin horizontal, ouais. Logiquement et naturellement, tu fais charge bas haut, ça fait un requin vertical.
Ouais.
Donc jusque là tout est logique, mais tu essaies de faire juste un demi-cercle avant,
ouais.
Et ça fait un autre projectile. Il envoie un bateau pirate d'eau énormissime. Donc en fait, non seulement c'est un personnage à charge, ouais. Mais non, c'est un personnage à charge, mais avec des coups spéciaux en demi-cercle qui envoie directement
ça,
et un projectile encore plus gros, avec plus lent. Bien entendu, parce qu'il y a toujours la contrepartie avec plus de recovery. Mais voilà, c'était quand même fou à l'époque, puisque c'est un perso à charge, mais aussi avec
deux projectiles. Ouais, il avait deux projectiles différents.
Et qui, aussi, ouais. Je crois.
Okay. Alors.
Ensuite, on a Ryoko, la judokate.
Alors, Ryoko, ça, c'est un sacré morceau, parce que Ryoko, on va dire, il y a beaucoup d'histoires à propos de Ryoko, si je me souviens.
D'histoire. Déjà, c'est un personnage qui a réellement existé.
Ouais.
C'est une judoka japonaise.
Oui, ça, je me souviens.
Et Ryoko Tamura.
Oui, et qui a été, c'est pas retrouvé comme dans World Heroes, puisqu'elle a été aussi, elle a inspiré, on va dire, un autre personnage d'un autre jeu de combat. Donc on se retrouve avec deux jeux de combat différents, avec une Ryoko judoka. Et des fois, il y a des petites confusions.
C'est dans
Fighter History, en fait.
Fighter History, voilà.
Ouais. Moi, je trouve que dans le design de Ryoko là, elle fait aussi penser un peu à Yawara, qui était un manga de Naoki Urasawa qui avait 20th Century Boys.
Oui, tout à fait. Oui.
Et dans le design, elle y ressemble pas mal, elle y fait beaucoup référence.
Et quand tu disais Frionel,
c'est possible,
tout à l'heure,
c'est possible,
elle a inspiré Ryoko de Fighter History Dynamite, c'est pas la Ryoko de Fighter History Dynamite qui a servi de modèle pour Makoto dans Street Fighter 3 après ?
Ça,
je crois que je confonds peut-être, mais en gros, c'était un des premiers personnages karatéka en fait, féminin. Véritablement, kimono quoi.
Peut-être, ouais, elles ont le même coup.
Elles ont des coups semblables.
Ouais, peut-être que ça.
On m'avait dit ça une fois.
On vérifiera.
On vérifiera à l'époque quand on fera le podcast Street Fighter 3.
Ouais.
Donc, profession, judo queen. Attention,
judo
queen. Elle a 12 ans, mais c'est une judo queen. Le bad test. Alors ensuite.
Ensuite, un des personnages emblématiques de la saga, Mudman.
Ah putain, Mudman. Alors lui, quoi. Mais alors lui, alors attention.
Dans le genre délire, il se passe au même niveau que Rasputin.
Mudman, profession, spirit warrior. C'est un spirit warrior. Attention.
Alors, on peut peut-être parler du graphisme du personnage. Voilà.
Alors,
c'est un type qui se cache derrière un masque de bois. Le masque de bois, il fait la taille de quasiment tout son corps.
Voilà, c'est ça.
C'est hallucinant.
Ce qui est excellent, c'est que c'est un personnage avec un masque.
Ouais.
Mais le masque s'anime. Ouais. Il a des expressions faciales. Ouais. Il s'énerve quand il envoie des projectiles. Il fait une grimace.
Quand il prend des coups.
Donc on se dit que ce sont peut-être son vrai visage. Mais en fait, non. Car quand il se protège,
il met le masque en avant.
On voit qu'il y a réellement un guerrier en fait aztèque ou je sais pas quoi derrière.
Ouais.
Et
d'ailleurs c'est bien qu'il soit caché derrière son masque parce qu'en fait il a aucun charisme sans son masque.
Aucun charisme. Ouais. Ouais.
Et c'est un personnage qui balance que des projectiles. C'est un spammeur de projectiles.
En fait, sans son masque, il a aucun charisme.
Pour l'instant, il a qu'un seul projectile. Il a un espèce de tatsu dirigeable aussi. Il peut se contrôler.
Oui, je me souviens.
Et il a pas mal de coups bizarres. Il peut voler en l'air. C'est un personnage fou. C'est-à-dire que son gameplay, ses coups de base. Sont complètement originaux. Il est inspiré de rien.
Il est aussi méga impressionnant.
Et méga impressionnant. Ouais. Dans
sa winning pose, là où il avance et il recule dans le fond du décor.
Il rentrait dans le fond du décor. Il avait une espèce d'effet 3D dans sa winning pose où il recule et il revient et c'était fou. Le personnage complètement fou. C'est-à-dire qu'ils ont compris, ADK, ils ont compris qu'il tenait un truc avec les personnages impressionnants.
Ouais.
Comme en plus. Ils n'étaient pas sérieux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient.
Voilà,
c'était libre.
Je voulais en dire tout à l'heure. C'est que là, ils ont volontairement poussé le bouchon le plus loin possible en fait, dans le délire. Et c'était vraiment assumé.
D'accord. On continue un petit peu.
Donc, c'est bien un personnage emblématique du jeu.
Ah ouais, moi j'adore. Mais en fait, c'est marrant, mais je crois que je connais plus Mudman. J'ai déjà vu plus souvent Mudman que Hanzo et Fuma.
C'est logique, Parce que de toute façon, il y a aucune autre copie de Mudman.
Voilà, c'est ça un peu. Ouais,
il est propre.
Bah, tu me dis World Heroes, le premier auquel je pense, c'est Mudman. Quoi.
Ouais, voilà.
Il n'a pas un autre nom en anglais ?
Non.
Non.
Mais il a une digite vocale.
Oui, mais de ouf.
Alors ensuite.
Ensuite, on passe attention. À monsieur qui a pour profession viking.
Viking.
Eric.
Alors, Eric Country, la Finlande ou la Suède ou je ne sais quoi. Un
truc voilà, un Norvège.
Norvège plutôt.
Voilà, ouais.
Alors, comme vous voyez, Nathan est super calé en géographie voilà. En histoire. C'est impressionnant.
C'est pas des îles au-dessus du Japon, ça
ouais. Bah, il est plus ou moins basé a pas joué. Sur, il a pas sur Eric le Rouge.
Voilà. Alors, Eric, qu'est-ce qu'on peut dire sur Eric?
Bah, il est plus ou moins basé sur Eric le Rouge, en fait. C'est,
un viking. Voilà.
Légendaire.
Et en termes de gameplay, il se joue comment, ce perso?
À lâche.
Voilà. C'est un gros bourrin.
Il a une hache. Oui, parce qu'il a le Mjolnir Hammer, le marteau de Thor.
Il a le marteau de Thor.
En fait, c'est un combattant viking qui a le pouvoir de contrôler les vagues, donc il envoie des vagues. Mais en plus, il a le pouvoir de Thor qui le soutient et qui lui donne son pouvoir des éclairs, etc. Donc c'est un personnage complètement fou aussi, avec le gameplay fou. C'est un lourdeau à gros dégâts.
Et pourquoi ils n'ont pas fait un tag entre le pirate et le viking? Il y en a un qui ferait les vagues et l'autre les dauphins.
Mais c'est ça qui est fou dans le jeu, c'est qu'on peut.
Les vikings sont des pirates.
On peut faire des combats complètement fous et des combats historiques de malades grâce à World Heroes. Tu peux faire affronter Eric le Rouge contre Captain Kidd, contre Hulk Hogan, contre Ryoko, contre Jeanne d'Arc.
Okay.
C'était la folie ce jeu.
Alors continuons
folie.
Avec les deux derniers.
Le prochain c'est Shura.
Shura. Alors, au début je croyais qu'il était indien, mais non en fait. Profession Muay Thai. Ok, c'est un métier.
Ouais. Comme un autre.
Ouais, voilà, hein, je dois dire. Voilà.
Faut dire que là-bas c'est un peu.
Une sorte de Joe ou un truc différent, parce que perso Muay Thai, on pense forcément à Fatal Fury.
À Saga, Joe, etc.
Voilà.
En fait. Dans le design, il fait penser à Joe Gashi parce que bon, il est en short.
En même temps, je ne connais pas beaucoup qui font du Muay Thai sans être en short.
Voilà.
C'est un peu une fusion boxeur aussi. Là,
parce qu'il a des gants de boxe. C'est un boxe, ah bon c'est un boxe thai avec des gants de boxe. Donc,
il fait des poings et des pieds. Quoi.
Ouais, voilà. Et par contre, lui, dans son gameplay, même si le design, on va dire, parce qu'il ne peut pas vraiment parler de design, il est un peu. C'est du déjà vu. Ils ont quand même essayé de lui inventer des coups jamais vus. Et là, pour la peine, réussi.
Ouais, et puis le personnage, franchement, graphiquement, je trouve qu'il a aucun charisme. C'est clairement le personnage qui me plaît le moins dans le casting.
En fait, même ses coups de base, ils sont bizarres en fait. Il a une espèce de Tiger Knee Kick qui sort de l'écran qui te retombe dessus. C'est pas bizarre, mais il a un coup que j'arrive pas à comprendre.
Le
coup, il est implacable. Mais il a un coup que je cherche encore à comprendre. En fait, il fait un dash en avant. Donc normalement, tu te dis, va frapper. Mais il fait un bond arrière en frappant. Enfin, le coup, il a absolument. Il est ni overhead ni rien. En fait, le coup, il va vers toi, mais il recule en frappant. Il n'y a absolument aucune chance de se manger ce coup-là. Il n'y a pas de feinte.
Peut-être en punition de dragon de l'autre bout de l'écran.
Même parce qu'il va reculer, il ne punira pas le dragon. Même parce qu'il va dasher vers le gars en vop. Et frapper en reculant, en sautant en arrière. Donc il faut que, pour qu'il touche, il faut que quand il te dash dessus, tu aies envie de le suivre. Mais c'est bizarre. En fait, ils ont essayé d'inventer des trucs. Par contre, bon, il a quand même quelque chose qui deviendrait une norme dans la saga envers après, c'est que c'est un personnage qui a un backdash.
Ah, d'accord.
Ouais. Donc il a une option de mouvement en plus.
Ok, ensuite,
il nous en reste plus qu'un.
Ah bah, il nous reste...
Maximum. Le joueur de football américain qui a une gueule toute noire avec des yeux rouges.
Il est maléfique.
En fait, c'est Akuma.
C'est un joueur de football américain maléfique qui envoie des balles énergétiques.
Par contre, j'ai pas l'impression qu'il a une carrière de quarterback, contrairement à ce qui est marqué dans l'affiche.
Il a plus d'être un gars de la ligne.
Franchement, le perso, il est monstrueux, il est énorme, quoi. Je crois qu'il a un coup, il envoie son équipe aussi, non?
C'est plus tard. Ce qui était stylé, déjà, c'est que c'est la première fois qu'il y a un personnage qui fait du football américain. Et le gameplay qu'ils lui ont donné, en fait, au début, on penserait que c'est un Sagat, puisqu'il a une boule haute et basse.
Ouais.
Mais en fait, pas du tout, puisqu'il contrôle pas de l'espace de la même manière. C'est un vrai lourdeau, il fait super mal. Ils ont réussi en fait à mettre un personnage avec des boules. Mettre un personnage puissant, un gameplay avec des projectiles, et ça s'est super bien passé. D'accord. T'es vraiment, vraiment plus, c'était impressionnant. Son sprite est énorme, incroyable.
On peut dire qu'il est basé sur Joe Montana.
Joe Montana.
On peut dire ça.
Il est basé là-dessus.
Pas que je veuille casser l'ambiance, Montana mais un joueur de football américain, est-ce vraiment un personnage historique qui mérite, comment dire, d'être dans un jeu dépend. Où tu fais combattre les meilleurs.
Bien sûr. Il faut dire que le football américain est un sport de combat, hein, quelque part. Hein.
Ouais, c'est vrai, on a donc, comment ils se mettent dessus.
Et puis il fallait...
C'est un sport de combat collectif, c'est ça la nuance.
Voilà, c'est ça la grosse différence. Mais il faut dire aussi que, pourquoi pas.
Oui, voilà, c'est
pourquoi
ça que
pas. C'est
dire.
Ça qui est puissant dans World Heroes. Mais pourquoi pas, pourquoi
on
pas,
s'éloigne
on
un petit peu de l'idée de base de World Heroes, les héros légendaires.
Parce que c'est un héros des médias américains, ouais, tout comme Bruce Lee est un héros des médias du cinéma.
C'était peut-être pour toucher un public américain plus qu'autre chose. Hein, parce que
si on est en 93.
Il y a un américain, je crois, dans Street 2, à Ken.
Ouais, Guile, voilà.
Guile, parce que Ken, encore, c'est discutable. Ouais, il a la nationalité américaine.
Mais je veux dire, il n'a rien d'américain sur lui, à part un drapeau et alors... c'est un armée. Enfin, c'est un militaire. Ouais.
Oui, c'est juste alors, tatoué le drapeau américain.
C'est purement américain, c'est le sport national américain.
Alors, il y a un truc qui m'amuse, c'est que j'étais persuadé que Brian Butler était le premier joueur de football américain de jeu vidéo, et encore une fois, enfin, de jeu de baston, et encore une fois, c'est World Heroes qui a devancé tout le monde.
Exactement.
Ok, alors. On va parler du système de jeu. Ensuite, on va faire une petite pause, une petite coupe, et ensuite, on reprendra pour Jet et.
Et Perfect.
Voilà. Alors, le système de jeu de World Heroes 2, c'était comment ?
Alors, déjà, il y a tout ce qu'il y a dans le 1, grosso modo.
Il y a eu un changement du bouton C ?
En fait, là, maintenant, c'est fini l'histoire de.
L'histoire de l'arcade.
C'est pas ça fait taunt, c'est pas si ça.
Donc, voilà. Donc, en fait, le bouton C, de loin, ce fameux bouton Shop. Fait la taunt.
Ouais,
nouveauté
d'accord.
Dans les jeux de combat, on peut provoquer son adversaire.
Après Art of Fighting. Ou avant Art of Fighting.
Art of Fighting, ça servait à baisser la barre.
C'était une vraie attaque.
Alors que dans celui-là, c'est absolument gratuit.
Ça fait rien du tout.
Ça ne fait absolument rien. C'était
quoi,
juste.
Ça ne pouvait naître que dans World Heroes, en fait.
Ils ont trouvé ce fameux bouton Shop qui servait à rien en combat. Ils se sont dit, mais. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire concrètement ? Donc, ils l'ont rendu utile puisqu'il fait une provocation.
Ça fait une feinte pour G-Max, là. Ça fait une feinte de son coup où il va dasher.
Pas mal.
Il y a une utilité stratégique.
D'accord. Et hormis le changement de bouton, est-ce qu'il y a eu des changements en termes
il y a des choses énormes.
L'apparition du Just Defend.
Qui renvoie les
boules. Dans World Heroes.
C'est World Heroes. C'est du complètement Just Defend. World Heroes est le premier jeu à avoir incorporé World Heroes 2. Le premier jeu à avoir incorporé ce système qui fut reproduit.
Alors, tu peux peut-être préciser du coup ce que ça fait.
Bien sûr. Ça renvoie les boules.
JP.
Ouais. Ça renvoie les boules, le Just Defend. Non seulement tu te fais pas gratter, mais tu renvoies la boule du mec.
Ça renvoie le projectile.
Ce qui est énorme, c'est que tu peux faire du Just Defend sur du Just Defend.
Et l'autre peut le renvoyer, et donc vous pouvez jouer à vous envoyer les trucs. Et celui-là qui perd, il prend une patate dans la vraie vie.
Mais le Just Defend renvoie les boules, mais pour le Just Defend, il absorbait juste. Enfin, c'est juste une garde, quoi. Spéciale.
En fait, non, c'est-à-dire que. Il y a eu des jeux vidéo et des jeux de combat, je veux dire, avec des personnages avec des réflexes, c'est-à-dire des coups qui renvoient les boules. Là, dans ce jeu, comme il y a énormément de personnages avec des projectiles, ils ont carrément mis un système défensif spécifique aux projectiles qui consiste à, si tu mets ta garde au dernier moment, et je dis bien au dernier moment, parce que c'est vraiment technique à faire. C'était une technique réservée un peu aux top players. Si tu mets ta garde au dernier moment sur le projectile, tu n'as pas de chip damage, tu ne te fais pas gratter et tu renvoies le projectile.
D'accord.
Donc quand tu envoies un projectile, c'est comme si tu jouais, je ne sais pas, pour des joueurs qui ont joué un peu à contre des personnages comme Rose dans Street Fighter 4 ou Street Fighter Alpha, c'est comme si tous les personnages pouvaient renvoyer les projectiles. Et donc il y avait cette menace constante. En plus de ça, si on voulait faire du chip damage sur une fin de match, on s'exposait au risque que l'adversaire nous renvoie le projectile.
Sachant que le projectile était renvoyé avec ses mêmes propriétés,
exactement la même vitesse, tout pareil.
D'accord.
Allez, et au corps à corps, du coup, c'était pas toujours évident de faire un projectile parce qu'une garde un petit peu tardive pouvait renvoyer le projectile dans la gueule. Fallait faire attention.
Et tu parlais tout à l'heure du dernier moment. Je tiens à préciser que quand c'est vraiment the last moment, on est beaucoup. C'est encore plus compliqué que le pairing de Street Fighter 3.
Le timing est serré. Et surtout, ce qui était très fort pour ce jeu à l'époque, c'est que les personnages qui n'avaient pas de projectile et qui n'avaient pas forcément de solution contre les projectiles pouvaient toujours les renvoyer.
D'accord.
Donc il y avait
ça change complètement. Ça,
voilà, il y avait pas de situation. Par exemple, Muscle Power dont on parlait, qui est le chopper de base, pouvait facilement s'en sortir contre des personnages à projectiles puisqu'il pouvait les renvoyer.
D'accord. Il y a quoi d'autre ?
Il y a les chains. Quoi, l'apparition des chains,
Alors qu'est-ce que vous appelez les chains ? Parce que pour
les chains gombo, en fait.
Tu bourres le bouton.
À l'instar d'un Final Fight.
Ouais.
Quand tu mitrailles un bouton, le bouton de coup, ça fait un enchaînement de coups.
C'était pas dans Mortal Kombat déjà ça ?
Non,
pas tout à fait, c'était pas la même propriété.
Gauche droite, gauche droite.
Ouais.
C'était
dans
dans le 3 et dans le Ultimate que tu voyais ça dans Mortal Kombat.
Ouais, voilà. D'accord. Non, mais là, en fait, quand tu mitrailles un bouton, il faut un enchaînement de 4
coups. Alors, ça dépendait des personnages. Ouais, en fait, voilà, c'est lié au caractère. Ouais,
voilà, le dernier coup, à terre d'accord. aussi.
Et le dernier coup.
C'est pas juste enchaîner punch, punch, punch. Là, c'était vraiment un enchaînement parce que tu appuyais sur plusieurs boutons.
Non. Tu faisais punch, 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 punch. Et lui, en fait, le personnage, c'était spectaculaire. Il faisait un enchaînement avec plusieurs coups différents.
Voilà, c'est ça, plusieurs coups différents. C'est ça que je veux dire. C'est pas comme ça, il mitraille punch.
Comme dans les beat'em all. C'est exactement le même principe.
D'accord.
Et c'était super impressionnant à l'époque et quand tu faisais ça. Mais
c'est en plus une ouverture géniale pour les gens qui ne jouaient pas justement là encore au jeu de combat, parce que le jeu devenait plus compliqué, plus subtil, parce qu'on allait en profondeur.
Il y avait des cancels,
mais,
etc.
Du coup, les gens qui eux ne voilà, ils découvraient le jeu,
ils pouvaient bourrer le bouton.
Hop, ils bourraient un bouton et pas de problème.
Ça faisait un combo.
Sympa.
C'était génialissime. Sympa. Absolument génialissime.
Il y a quoi d'autre sinon?
Le clash des shops, non?
Voilà, donc ouais, c'est ça.
C'est quoi le clash des shops?
C'est surtout la D-Shop, l'apparition de la D-Shop.
Ouais,
apparition de la D-Shop pour la première fois en World Heroes.
Oui.
D'accord. Et ça se faisait comment la D-Shop? Pendant une shop, tu refaisais toi-même ta shop?
Alors c'est assez spécial. En fait, plutôt que parler de D-Shop, on va parler de contre-shop. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu te fais choper, si tu appuies toi aussi sur le bouton shop en réaction, c'est toi qui chopes l'adversaire.
D'accord.
Mais il peut rappuyer sur le bouton shop et te rechoper.
Et ça peut durer à l'infini comme ça.
Ça fait une danse.
Et c'est celui qui bourre le plus. C'est celui qui bourre le plus sur le bouton shop.
Ça fait vraiment une danse.
C'est un peu comme pour le renvoi de projectiles. Ils ont pensé à une mécanique qui faisait que on pouvait se protéger, mais on ne pouvait pas piéger forcément l'autre parce qu'il pouvait avoir aussi la même option défensive.
Voilà, exactement. En fait, il n'y a pas
le
de tic
trop. Le truc qui dérange les novices quand on commence, c'est les tic trop à l'infini.
Voilà, les tic trop qui ont beaucoup parasité.
Vous pouvez rappeler ce que c'est que les tic trop?
En fait, le principe du tic trop dans Street Fighter, c'est que tu mettais un coup dans la garde et que tu venais tout de suite choper un coup faible, à recovery rapide, mais avec un petit blockstone, très léger blockstone, qui permettait de choper pile poil la fin du blockstone. Et comme la chope va tellement vite que l'adversaire n'a pas le temps de rien. Il doit forcément faire un coup qui le met en l'air au début, super méga technique. Et ça rendait vraiment le jeu, pour les gens qui en abusaient, ça rendait le jeu vraiment imbuvable.
C'était la technique ultime.
Voilà. Ouais, surtout, dans World Heroes, ce n'est pas possible. Tu ne pouvais pas abuser de ça.
D'accord.
Tu pouvais choper en surprise, mais l'adversaire avait toujours une solution.
Au lieu de juste se retrouver en l'air, là, tu pouvais lancer la danse de déchoppe.
Non, c'est-à-dire que quand tu venais choper, tu prenais un risque de te faire choper. C'est
d'accord.
Ça. C'est comme quand tu envoies un projectile, tu prends le risque de te le reprendre.
Ouais.
Là, c'est pareil. Là, si tu viens choper, tu veux abuser de la chope, tu prends le risque. Et c'était une réponse de ADK à l'époque, parce que le spammage de boules et les chopes, c'était un peu les points faibles de Street Fighter de l'époque.
Bah, c'est même aujourd'hui, beaucoup considèrent que le combat dans un jeu de baston, c'est au corps à corps, c'est pas du zoning.
En fait, ouais, bon, ça, là-dessus, c'est discutable.
Non, bien sûr, mais on a déjà parlé dans Street
Fighter. Ça. Ça sent le vécu.
Ouais, un petit peu. Ouais.
Donc là, en fait, c'était une réponse à des gars en disant, ok. Vous, Street Fighter, ça vous embête les mecs qui spamment les boules et vous pouvez rien faire? Ça vous embête les gars qui abusent du tic-trop? Dans World Heroes, pas de problème, tous les personnages envoient les boules et tu peux déchoper.
Et ben voilà, tranquille. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Sinon encore, j'ai l'impression de me répéter, mais en fait il y a plein de trucs qui ont été rajoutés, quoi. C'est ouf.
Le deathmatch, une grosse modification.
Alors,
dans le deathmatch.
Quelle modification?
Alors dans le premier World Heroes, dans le deathmatch, on avait des barres de vie comme dans le mode versus.
Ouais.
Là en fait, on a complètement changé. Là, il y a une seule jauge qui divise en deux couleurs. Plus on tape l'adversaire, plus on domine. Notre couleur domine et on gagnait, en fait, soit donc au time over, celui qui a la plus grande domination de couleur.
Il n'y a qu'un round aussi.
Ouais, voilà, il n'y a qu'un seul round. Il n'y a qu'un seul round et il y avait plus de temps, forcément.
Ouais.
Je sais pas, 160 secondes.
Donc
ça devenait
encore plus
le ring.
Et donc, en fait,
c'est-à-dire
que tu pouvais te faire massacrer, c'est-à-dire que te faire complètement conquérir ta barre de vie.
Ouais.
Mais tu pouvais toujours revenir et rebouffer toute la barre. C'est-à-dire que tout était possible.
Jusqu'à la fin.
Il y avait
d'accord.
des comebacks de folie.
De malin.
C'était, et là, ça a rendu ce mode-là absolument dantesque, absolument mythique. Les combats en deathmatch, c'était incroyable. Parce que tout pouvait. Tu pouvais te manger des combos, des phases, te prendre des bombes, des mines, glisser, rebondir et être au zéro de vital, c'est-à-dire à un coup de la défaite, et tu peux tout remonter.
Ouais.
Et plus tu remontes, plus tu t'éloignes du risque de la défaite,
ouais.
puisque forcément, c'est tu reconquéris la
barre de l'autre.
De l'autre, et c'est toi qui prends cette domination-là.
D'accord.
Et avec
en fait, il faut voir la barre un peu comme une balance.
Une balance,
voilà, c'est la personne qui a mis le plus de coups dernièrement.
Et je crois qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent World Heroes 2 grâce à ce mode-là,
à ce principe-là,
de tous les World Heroes.
Plus, ouais, qui est plus,
après, il faut aussi dire qu'ils ont ajouté plein de nouveautés au niveau des arènes. Il y avait
des nouveaux pièges.
Chaque personnage avait des nouveaux coups.
Ah oui, bien sûr. Oui, bien entendu. Normal, alors là, enfin, après, bien sûr,
Enzo pas demandé, Fuma, mais ça me paraît
Enzo et Fuma, bah, se sont différenciés. Normal, ils ont eu de nouveaux coups.
C'est pas le cas.
Alors, j'ai une question toute bête, mais le fait que, oh toi, ça va. Le fait que le jeu, en fait, te propose beaucoup d'options défensives. Est-ce que ça rendait pas l'attaque difficile?
Non.
Non.
Parce que les personnages avaient un gameplay et une palette de coups suffisamment variée. Je vais te donner un exemple. On parlait de Rasputin tout à l'heure. Il a un coup qui est complètement incroyable déjà. C'est le premier. Bah, je te laisse en parler. Tu connais mieux que moi. Hein.
C'est le dragon pied, il me semble. Et il fait casse-garde et il essaye Fangard.
Il est overhead en fait.
Ouais, trop.
Il est overhead. C'était le premier coup au sol overhead.
C'était le premier overhead jamais apparu.
Ouais, il décolle un peu quand même.
Oui, mais donc, la manipulation, tu l'as fait sans
sauter.
Ouais,
tu l'as fait au sol. Ouais.
D'accord, donc premier overhead, Rasputin. Comme quoi, Rasputin voilà. A
premier overhead
apporté...
au sol.
Au sol.
Donc en fait, c'est-à-dire que même voir l'adversaire, ça rajoutait une dimension de gameplay de fou, parce que voir l'adversaire au sol signifiait qu'il fallait pas que la garde basse n'était pas une sécurité.
Donc,
Après, pour revenir à ta question, les options défensives, elles étaient toujours dans des environnements très spécifique, c'est-à-dire renvoi de projectiles, déchauffage. Donc ça ne résistait pas vraiment le reste du jeu. Il y avait toutes les autres possibilités qui restaient là avec sans se sentir lésé.
On peut même dire que c'était même que du plus, d'ailleurs.
Ça rendait le jeu plus profond, malgré le fait qu'il se jouait toujours avec que deux boutons, c'est-à-dire deux niveaux d'attaque.
D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter concernant le gameplay de World Heroes 2 ou est-ce qu'on a tout dit?
Bah, sinon on va rentrer dans les détails des coups des personnages.
Oui, on va peut-être parler. Besoin,
un petit truc quand même à préciser, bon, parce qu'on l'avait fait pour Street Fighter 2. Dans World Heroes premier du nom, on pouvait stun un personnage déjà stun.
Ouais.
Et dans World Heroes 2, c'est plus possible. Une fois qu'il est stun, si tu lui remets un enchaînement, tu peux pas le remettre stun de sa position stun.
Je crois que tous les jeux ont évité ça.
Ouais, on a appris ça. Mais World Heroes a quand même fait la bêtise de prendre.
En tout cas, on peut dire qu'on a une évolution énorme par rapport au premier épisode. Plus de personnages, plus de coups, gameplay considérablement enrichi. Graphiquement, le jeu est
un
plus beau
boss.
Aussi.
Beaucoup plus beau, bien sûr. Oui. Les sprites ont été
retouchés. Le premier a très mal vieilli, mais à partir du 2, là, on rentre dans des normes qui vieillissent.
De nouveaux stages. Il y a eu vraiment, vraiment travail. Nouveaux stages, nouveaux sprites, nouveaux persos.
Tous les sprites ont été refaits, oui, ça faut le préciser. Parce que même les anciens, parce que d'habitude, c'est vrai que dans un jeu de combat, souvent, ils gardent ce qu'ils peuvent garder.
Quand ils ont annoncé World Heroes 2, c'était pas World Heroes 1 Dash ou World Heroes Turbo.
On se fout pas de la gueule du monde,
c'était
World
Heroes 2 et un vrai 2. Hein. Ouais. Et c'était vraiment, vraiment énorme pour l'époque. Surtout l'apport des persos, en fait, ce qui a vraiment bluffé tout le monde, c'est les 6 nouveaux persos complètement originaux, impressionnants comme les autres. Enfin, il y avait vraiment, vraiment, il a marqué son temps, le jeu. Hein. Vraiment, vraiment.
Et c'était qui le boss de fin dans cet épisode?
Donc d'abord, il y avait Neo Didius, donc le
Neo
retour Didius qui revient en version Neo, et d'ailleurs il y avait un jeu de mots avec Neo G, donc pour Neo Geo. Et donc ce premier affrontement, et on affronte après Neo Geo, donc qui lui carrément, l'appellation en japonais c'est carrément Neo Geo, qui lui était le dernier boss du jeu, et qui par contre là était un vrai boss à part entière. C'est-à-dire qu'il avait une apparence proche, son physique était proche de celui de Gidius, sauf qu'il avait vraiment des coups.
Il avait des coups à lui.
Il était lui aussi en espèce de métal liquide, mais il avait vraiment ses propres coups.
On peut dire que c'est-à-dire le graphisme fait penser clairement à l'Alien, enfin, c'est un graphisme très Asher Ginger en fait, on est dans
Exactement.
D'accord, ok.
Black Earth là dans
Marvel.
Dans les Marvel,
Bon, écoutez, si on a tout dit sur World Heroes 2, on va s'arrêter là pour ces deux premiers épisodes. Et puis ensuite, on va continuer. Donc, je vous invite à continuer, si vous en avez encore envie, avec World Heroes 2 Jet et World Heroes 2 Perfect.
Non, World Heroes Perfect. Perfect.
World Heroes Perfect, pardon. Perfect. Donc, on vous retrouve dans très peu de temps. À tout de suite.